Chapitre 79. Apprendre l'équitation autrement avec Léa de SurfPow. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'un an, tous les mercredis, pour vous partager des connaissances, mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées, mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Je vais la faire courte, parce que cet épisode dure pratiquement déjà 2 heures, rien que le temps de mon interview avec Léa. Alors j'ai décidé de juste te planter le décor sur le pourquoi du comment j'avais envie de parler avec Léa et de te laisser en fait avec la teneur de nos échanges. En fait, tu vois, depuis que je fais ce podcast, je suis convaincue qu'une des grosses problématiques que l'on rencontre quand on devient propriétaire, c'est qu'on change brusquement de paradigme. On passe de cavalier avec nos petites problématiques de cavalier et là, on découvre le monde du cheval. Ce que c'est de vivre au quotidien avec eux, ce que c'est de devoir penser comme eux, réfléchir comme eux et les gérer tout simplement, c'est-à-dire savoir ce dont ils ont besoin, savoir les observer correctement, gérer les petits bobos, les petits tracas, prendre des décisions pour eux, sur leur santé, mais aussi sur leur bien-être, bref, tout ça. Et ce tout ça, ça prend une place énorme dans le cerveau, d'autant plus énorme quand, en fait, on réalise subitement que ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître quand on allait au centre équestre pour se changer les idées et non pas pour venir se créer de nouvelles problématiques à gérer. Alors désolé, là je dépeins un petit portrait un peu négatif, mais c'est pas du tout ce que j'ai en tête. Ce que j'ai en tête, c'est de te partager justement qu'on peut apprendre l'équitation différemment. En tout cas, c'est la promesse que nous fait Léa. Et oui, parce que Léa, c'est une jeune diplômée qui a passé le BPJEPS et qui a décidé que non, l'équitation c'est pas comme ça que ça s'apprenait. L'équitation ça s'apprend en fréquentant le même cheval. L'équitation ça s'apprend en étant à pied à côté de son cheval. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler. Alors certes, Léa n'a pas besoin de moi pour être populaire sur les réseaux sociaux. Effectivement, elle a à peu près plus de 10 fois l'audience que moi j'ai aujourd'hui sur ce podcast. Mais par contre, Léa, j'avais envie de lui donner toute la latitude de pouvoir se confier, de prendre réellement du temps pour parler de ce qui est important pour elle, de son parcours, de sa vision, des difficultés qu'elle a à réaliser cette vision. J'avais envie justement de lui offrir un safe space où elle n'était pas limitée par le temps. Elle n'était pas limitée par les 20 minutes que doit faire une vidéo YouTube si on veut avoir plein de vues. J'avais envie qu'elle puisse prendre le temps justement de décortiquer tout ce qu'elle avait à nous dire, sans se soucier du temps qui passe. Voilà, c'était ma promesse pour toi Léa. Et maintenant, il est grand temps que je te laisse avec notre échange. Je lance le jingle. Salut Léa.
Salut.
Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis super contente de te recevoir dans le podcast. J'ai plein de questions à te poser. J'ai d'abord envie que tu commences par te présenter en quelques mots. Qui es-tu? Quel est ton parcours Léa? Je pense que c'est important qu'on résume, on va dire, ton histoire en quelques mots
ouais.
Pour introduire le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est comment repenser l'équitation de demain. Rien que ça.
Waouh, c'est beau. Donc moi, c'est Léa. J'ai 26 ans, je suis monitrice d'équitation, mais je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis 7 ans, je crois maintenant, sous le pseudonyme... SurfPow, et je suis en création d'une écurie d'enseignement éthique et respectueuse du cheval et de l'humain. J'ai commencé comme tout le monde en tant que cavalière de club, sauf que j'ai eu la chance de devenir propriétaire de mon premier poney lorsque j'avais 11 ans. Et après ça, j'ai quitté le club et j'ai commencé à monter en fait dans des élevages ou des écuries. Voilà, j'ai fait de la valorisation de poney. Voilà. Et puis ensuite, j'ai eu un ras-le-bol de l'équitation lorsque j'ai récupéré mon deuxième poney qui s'appelle Ras. Et qui m'a clairement expliqué que lui, ça ne l'intéressait pas du tout, l'équitation. Et c'est comme ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, parce que j'avais besoin, je crois, à l'époque, de râler. Et c'est un peu parti comme ça. Non, mais j'avais l'impression d'être la seule à mettre le cheval avant l'équitation. En fait, à l'époque, mais parce que j'étais entourée aussi que d'écuries de compétition, de cavalières qui revendaient leurs chevaux très régulièrement, ce genre de choses. Et ouais, j'avais besoin de me sentir moins seule, je crois. Et du coup, j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux.
C'est intéressant parce que je pense, j'aimerais qu'on prenne une minute pour reparler de la valorisation des jeunes chevaux. C'est pas le but de cet épisode, mais je ferai un épisode là-dessus, tiens. Mais c'est un circuit à part entière, déjà, dont toi, t'es rentrée très jeune dans ce circuit de valorisation des jeunes chevaux. Enfin, c'est un des visages de l'équitation qui est pas forcément celui que l'on côtoie le plus en tant que cavalier de club. On y est un peu plus fréquenté, justement, quand on cherche à devenir propriétaire avec une ambition sportive, on va dire, derrière. Et ça, à la limite, c'est pas forcément à remettre en question, le fait d'avoir un peu d'ambition sportive. Mais il y a toute une mécanique autour du sport et justement de la valorisation des jeunes chevaux pour le sport qui est un visage de l'équitation, justement, ben, dans lequel on peut se sentir un peu isolé quand d'un coup, on réalise que parfois ça va trop vite, ça grille quelques étapes, qu'on n'est pas tout à fait dans l'écoute du jeune cheval. Donc, je suppose que c'est ce qui s'est passé pour toi. Et en plus, tu étais très jeune quand tu as participé, en tout cas, à ces années-là de valorisation. Il y a probablement un sentiment d'injustice un peu fort, non, qui s'est mis à grandir en toi.
Quand tu as 11 ans, 12 ans, tu t'en rends pas trop compte parce que les coachs, c'est ceux qui savent. Donc, quand ils te disent qu'à 3 ans, le poney, il doit être monté, il doit sauter parce qu'à 4 ans, il va faire toute la saison, tu le remets pas en question. En fait, ça, je l'ai remis en question quelques années après, vraiment, quand j'ai pris un peu du recul sur tout ce que j'avais pu vivre et sur ce que j'ai pu malheureusement faire endurer à beaucoup de poneys parce que il fallait qu'ils soient aux ordres. Après, à l'époque, il y avait déjà des choses qui me dérangeaient beaucoup et je me suis pris la tête avec beaucoup de monde du milieu autour de chez moi parce que je refusais de mettre des coups de cravache aux poulains pour qu'ils aillent sauter ou ce genre de choses. Mais oui, c'est un univers qui est compliqué et puis quelque part on se rend compte aussi que malheureusement les élevages les cavaliers qui valorisent, ils ont pas le choix que de suivre aussi ils ont pas le choix. C'est compliqué pour eux de sortir de ce circuit.
Tu veux dire que en fait c'est un circuit assez fermé et que du coup une fois que tu es dedans, c'est difficile de voir ce qui se passe ailleurs ou parce qu'en fait pour moi le circuit de la valorisation, c'est vraiment un petit milieu, tu vois, du monde du cheval qui est pas forcément très ouvert. Et puis en plus, au sein de la valorisation, il y a plein de types de valorisation différentes parce que t'as les éleveurs qui s'en sortent pas tout seuls avec leur élevage, qui du coup vont aller plutôt valoriser, tu vois, de l'ONC ou du OC et qui vont faire du pré-débourrage ou du débourrage juste pour revendre ensuite ces chevaux à 4 ans, par exemple. Et ça n'a rien à voir avec le sport, entre guillemets, mais c'est quand même de la valorisation. Il y a ceux qui sont là pour le sport et du coup, il y a plusieurs niveaux déjà. Il y a les poneys, il y a les chevaux, il y a ceux qui vont faire de la valorisation pour ensuite aller plutôt dans des écuries de sport, mais qui peuvent être du centre équestre de sport. T'as ceux qui vont rejoindre les circuits amateurs, t'as ceux qui vont ensuite rejoindre les circuits même de haut niveau. Et c'est encore différent, c'est encore une mentalité différente, c'est encore des mécaniques différentes, un business aussi différent. Donc, je sais pas dans lequel toi t'étais le plus. Moi, ça m'a toujours fasciné à quel point on pouvait mettre des ados pour faire de la valorisation.
Oui, moi, quand je parle de valorisation, je parle valorisation poney de sport, puisque à l'époque, il y avait que ça qui comptait. On parlait pas beaucoup des chevaux de loisir, on parlait beaucoup du cheval de sport. Et donc, moi, j'étais petite, j'étais fine, j'étais jeune, donc j'étais super pour monter les poneys. Tu dis que c'est un petit milieu, mais quelque part, la grande majorité des chevaux, en fait, ils passent par cette étape de valorisation aujourd'hui, puisque bah, la place du cheval de sport, elle est encore énorme aujourd'hui dans le monde de l'équitation. Et la plupart ont suivi le même parcours, c'est-à-dire les cycles classiques, jeunes chevaux ou jeunes poneys. Et puis ensuite, ils sont vendus pour la motte, souvent, pour les poneys en tout cas.
Oui, et puis forcément, bah, les poneys, on ne peut pas mettre beaucoup d'adultes dessus, donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin des ados. C'est un peu un joyeux foutoir.
Ouais, ouais. Après, justement, je disais qu'il n'y avait pas assez d'ados, parce que souvent, on fait monter les poneys par des adultes, et plus ça va, plus on élève le poney pour devenir un cheval d'adulte, et plus pour être un poney d'enfant. On voit beaucoup ça, les chevaux. Aujourd'hui, en concours, même dans les cycles classiques, donc pour valoriser normalement des poneys d'enfants, c'est très très rare de voir quelqu'un qui a moins de 18 ans, oui. Souvent, c'est des adultes, c'est leur métier d'ailleurs, ils enchaînent les poneys toute la journée pour les épreuves, quoi.
Moi, je suis un petit peu plus âgée que toi, et du coup, nous, on faisait à l'époque, on nous mettait sur les poneys, pareil, en centre équestre, pour sortir aux entraînements, puis aux officiels, pour aller à la motte, et puis parfois pour justement, à l'époque on disait faire gagner les papiers. Mais tu vois, c'était encore un autre circuit avec une autre manière de faire. Bon, on va dire que c'était gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le Poney Club avait des enfants forcément qui valorisaient ses chevaux en participant aux compétitions, en montrant le visage, et puis ça permet aux enfants d'avoir des expériences aussi quand même, tu vois, sportives et compétitrices. Voilà, c'est pour ça que je mets un espèce de gagnant-gagnant sur ce niveau-là. Même si, derrière, si ces poneys sont revendus, forcément, toi, t'as fait le job en tant que gamin de peut-être payer les gamelles, tu vois, sur les entraînements. Tes parents t'ont bien payé, en plus, ta participation au concours.
C'était tes parents qui payaient ? Non.
Bien sûr, les parents qui payaient les sorties des concours.
Ah oui, ah non, pas moi. Non, non, c'était les éleveurs qui payaient. Mais par contre, je faisais mon propre transport. J'emmenais les chevaux moi-même.
Je pense qu'il n'y a pas une manière de faire. Tu vois, il y a des époques avec des usages et des coutumes, mais c'est vrai que bon, tout ce principe de valorisation, c'est pas évident. C'est un autre visage qui mériterait un épisode entier. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que tu as eu ça dans ton parcours, parce que je pense que c'est aussi ce qui t'a mené à ce que tu as envie de faire aujourd'hui.
Oui. Très certainement. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que oui, c'est une grande partie de mon adolescence, en fait. C'est que comme ça que j'ai fait de l'équitation, puisque j'ai arrêté le poney club, j'avais 12 ans. Et en fait, après, j'ai monté que comme ça. Parce que j'avais un poney, mais mon poney, c'était un mini Shetland. Donc, autant dire que je pratiquais pas beaucoup l'équitation avec lui. Donc, en fait, je me servais, on va dire, des élevages. C'était du gagnant-gagnant aussi, quoi.
Justement, j'aimerais qu'on introduise un peu ton projet dont on va parler, qui est un peu aussi le cœur du sujet d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, justement à travers ta chaîne, donc tu as évolué, tu as commencé à nous parler de ton projet, qui est celui de proposer un nouvel apprentissage de l'équitation. Est-ce que du coup, tu peux déjà nous introduire ta vision aujourd'hui, donc celle de Léa, de 26 ans, qui justement a eu un parcours qui a été composé d'éducation du cheval à travers la valorisation. Quelle est ta vision de l'équitation pour toi aujourd'hui, ta vision du cheval et ta motivation justement à vouloir proposer autre chose pour les apprenants d'aujourd'hui ?
Ma vision, en fait, c'est un peu compliqué, je trouve, pour moi de la décrire, parce que j'ai toujours eu la même vision. Et pour moi, l'équitation, c'est ça. Et quand je dis ça, en gros, bon, je vais en parler, bien sûr, mais... Mais pour moi, c'est vraiment en fait ce que je cherche à faire de par autant mes réseaux que par mon projet, c'est de remettre le cheval au centre de l'équitation. Donc, c'est-à-dire de pas juste pratiquer l'équitation, de pas consommer l'équitation, mais de faire ce sport justement parce qu'on est au contact du cheval. Ce qui est, je pense, souvent on commence par là. On veut juste faire une caresse au poney au tout début, quoi. Et en fait, j'ai du mal à décrire ma vision parce que pour moi, elle est tellement naturelle. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est tellement naturel. J'ai toujours voulu faire de l'équitation parce que je voulais être au contact du cheval. J'ai pas valorisé des poneys parce que ça m'apportait de la gloire ou parce que j'aimais faire de la compétition. C'était pour la relation que je pouvais avoir avec eux. Quand on valorise un poney, on va monter le même poney pendant toute l'année, ce qui est différent du club, par exemple. qui était très frustrant pour moi. Moi, j'avais besoin de suivre l'évolution d'un cheval, de passer du temps toutes les semaines avec le même cheval, et j'ai jamais supporté l'idée de changer de cheval toutes les semaines, par exemple. Pour moi, ça allait pas avec ce que j'imaginais être l'équitation, on va dire.
Je suis profondément d'accord avec toi. À mon sens, la majorité des gens démarrent l'équitation, non pas pour l'équitation. C'est-à-dire, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se disent « Oh là, j'ai envie de faire du CSO ». Il y a beaucoup de gens qui se disent « j'ai envie en fait de faire de l'équitation parce que le cheval, cet animal, m'intrigue et que c'est le seul sport quand même aujourd'hui où on est au contact d'un animal ». Et donc, enfin.
Ouais, totalement. C'est le sport qu'on fait par défaut quand on aime les animaux un peu.
Et après, tu l'as dit, c'est intéressant, c'est vrai que finalement, le centre équestre, on va découvrir le cheval à travers une pratique sportive, mais on est souvent confronté au fait de changer tout le temps de cheval. Donc finalement, on découvre les chevaux autour de cette pratique sportive ou les poneys, ça va dépendre de notre âge. Mais c'est difficile. Enfin, naturellement, je pense que tous les gamins du monde et même tous les jeunes adultes, tous les adultes qui démarrent vont avoir des préférences, vont avoir naturellement cette envie d'avoir le cheval chouchou, quoi. Et il y a toujours ce cadre qui t'empêche, tu vois, d'avoir ton cheval chouchou. Ou alors, t'es déçu parce qu'il y en a un dans le cours qui a le droit d'avoir son cheval chouchou, mais toi, tu sais pas pourquoi, tu n'y as pas le droit. Et ça crée une frustration qui est énorme.
Totalement.
Et en ce sens, effectivement, bon, il y a plein de raisons qui font que les centres équestres fonctionnent de cette manière-là. Pour te dire que justement, il faut en essayer plusieurs avant de trouver celui qui te convient, que en fait, un cheval de club, il a fait plein d'heures, donc c'est difficile, a priori, d'aligner ce cheval avec tous les gens qui pensent que ce cheval sont leurs chouchous.
Ah bah oui, puis souvent, c'est toujours les mêmes chouchous.
Oui, bizarrement.
Donc,
du coup, c'est intéressant parce que toi, tu pars du postulat que, en fait, c'est ça qui nous motive, donc que... Il faut créer le système et le modèle qui va autour de ça.
C'est ça, exactement. Parce que moi, quand j'étais petite, ça m'a vraiment énervée même. J'ai quitté le club. J'ai toujours eu un seul chouchou, moi, quand j'étais petite. J'avais mon chouchou de club, que j'adorais, qui s'appelait Giton, qui était un petit poney vraiment entre le Shetland et le poney B, que j'ai eu la chance de monter longtemps parce que justement, j'étais petite. Et en même temps, ça faisait partie des petits poneys un peu speed et tout qu'on mettait pas aux débutants. Donc du coup, il m'a suivi pendant plusieurs années sur les cours d'un peu plus haut niveau jusqu'à faire une saison de CCE ensemble parce qu'on faisait des cours CCE où là, on avait le même cheval toute l'année. Donc là, c'était génial. Oh, j'adorais ça. En fait, je crois que c'est pour ça que je faisais des concours, c'était pour avoir le même cheval. Et une année, en fait, on m'a dit là, c'est bon, là tu vas passer sur plus grand et tout parce que bon... C'est un petit poney, quoi. Et ben, je suis partie, direct. J'ai même pas réfléchi. J'ai dit, ah bon, je vais plus pouvoir monter mon chouchou. Pardon. Et je suis allée chercher ce que je souhaitais ailleurs, quoi. Mais oui, c'était vraiment primordial pour moi d'être avec ce poney-là, en fait, en particulier.
C'est intéressant parce que tu dis, je suis partie chercher ce dont j'avais besoin ailleurs. Et j'allais te poser comme question, qu'est-ce qui était le plus moteur dans ton parcours? Donc, justement, c'était quoi ce truc que tu es allée chercher ailleurs? Cette relation, certes, mais est-ce que tu as d'autres mots pour le décrire?
Oui, ce que j'étais allée chercher ailleurs, c'était justement la relation que je pouvais pas avoir avec un poney de club, parce que le poney de club, il allait être monté par d'autres, il allait pas m'être mis à tous les cours, malheureusement, et j'allais pas pouvoir le sortir entre les cours, ou voilà, parce que c'est un poney de club, quoi, donc il est pas à moi. Et j'étais très frustrée qu'il ne soit pas à moi. À partir de mes 12 ans, en fait, du coup, quand j'ai voulu faire de la valorisation, j'ai trouvé des systèmes où, en fait, on me confiait des poneys. En tout premier, quand j'ai quitté le club, je suis partie dans un élevage qui proposait donc aux cavaliers de venir monter gratuitement. Tu avais un cheval qui t'était réservé, donc tu étais... Enfin, un poney, parce qu'on était surtout sur des poneys. T'avais un poney qui t'était réservé, tu montais que ce poney. Bien sûr, tu devais prendre des cours avec et tu partais. La contrepartie, c'est qu'il fallait les emmener en concours. Et du coup, je suis partie là-dedans, justement pour pouvoir évoluer avec un seul poney. Au final, ça a été très compliqué aussi parce que j'étais pas non plus ravie de la manière dont ça se passait là-bas, même si j'étais jeune. Et je trouvais que ma ponette, elle était pas prête pour faire les compétitions qu'on lui demandait. Et du coup, je pleurais à chaque fin de concours et tout. C'était dur.
dans la valorisation, tu voyais le fait de pouvoir écrire une page blanche avec un cheval et, ou un poney. Et moi, il y a le premier truc qui me vient en tête, c'est « Ok, mais une fois que tu auras fini le job, il s'en va, quoi. » Et du coup, ça me semble être hyper déchirant, tu vois.
Ah oui.
Si c'est le moteur, en même temps, c'est un moteur où à chaque année, potentiellement, ou chaque deux ans, voilà, il y a un petit coup, tu vois, qui se crée. Enfin, justement, de ces années-là, qu'est-ce que tu retiens le plus? Parce que donc là, tu es en train de le dire, ça t'a déjà marqué que tu n'étais pas libre de finalement choisir comment tu avais envie de faire les choses.
Bah, en fait, j'ai essayé plusieurs façons. Parce que là, donc, la première chose que j'ai fait, c'est de partir dans un élevage, donc d'être encadrée par les gens de l'élevage et tout, ce qui était bien finalement à mon âge, parce que j'étais quand même très jeune. Mais ensuite, je me suis fait confier un poney que j'ai mis en pension à côté de chez moi. Donc là, c'était plus chouette parce qu'il n'y avait personne autour de moi et du coup, je faisais un peu ce que je voulais. Bon, aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'était pas forcément la solution. Mais déjà, ça me soulageait un petit peu. J'avais l'impression d'avoir mon poney chez moi et puis je m'en occupais et c'était vraiment ça que je voulais. Même si, d'ailleurs, je parle de tout ça, mais dans toutes ces années, j'avais mon Shetland quand même. J'étais pas sans rien, j'avais mon petit poney, mais avec qui j'ai jamais eu une relation incroyable, on va dire. Enfin, je l'aime très fort, hein. Je l'ai toujours aujourd'hui. Il s'appelle Diego. Il a 25 ans et je l'aime très très fort, hein, vraiment. Mais c'est un poney qui vient, enfin, qu'on a récupéré chez des manouches, qui avait très peur de l'humain et tout. Lui, il a toujours voulu qu'on lui fiche un peu la paix. Et quand j'étais petite, je l'embêtais beaucoup. Je lui ai fait faire des choses pas de son niveau, des parcours de saut, des trucs, des tout ce que j'apprenais moi dans mes cours, je le faisais faire à mon mini Shetland à côté, tu vois. Du coup, il a un peu encaissé pendant plusieurs années. Donc après, en fait, j'ai un peu pris la décision de le laisser un peu tranquille. Et donc moi, justement, de me faire confier des poneys à côté. Donc voilà, j'avais quand même cette base d'avoir toujours mon petit poney avec moi, mais j'avais ce besoin aussi d'avoir de créer une vraie relation avec un cheval qu'on avait envie, ce qui n'était pas forcément le cas de mon petit poney à l'époque, qui lui restait au fond du pré, puis quand je venais, il venait pas me voir, quoi. C'était un peu ça à l'époque.
T'étais un peu dans un partage à sens unique, quoi.
Oui, un peu. Et puis aujourd'hui, je le comprends, hein, parce que clairement, quand t'es jeune, tu leur demandes tellement de choses. Enfin, moi, en tout cas, c'était ça à l'époque. J'étais pas encadrée, hein, j'étais toute seule. J'avais mon poney dans un pré. Tu vas lui faire des énormes randonnées de toute la journée, alors que le petit poney, il fait 85 centimètres, quoi. Enfin, bon, le pauvre. Aujourd'hui, je m'en rends compte, mais bon, à l'époque, quand t'es jeune...
Il faut qu'expérience se passe.
C'est ça.
Est-ce que t'avais l'impression d'être dans le partage, justement, avec tous les différents chevaux que t'as eu en confiage pour la valorisation? Ou est-ce qu'il n'y avait pas, justement, cet objectif de valorisation qui venait un peu éclipser... Tu vois, il y a quand même une notion de résultat dans la valorisation. Avec une échéance, tu vois, sur le résultat. Est-ce que tu avais plus l'impression d'être dans le partage aussi, peut-être de par leur taille, par le fait qu'il y avait l'équitation et pas juste la relation à pied, entre guillemets?
Ah oui, à l'époque, on n'en parlait pas de travail à pied ou ce genre de choses. Donc déjà, pour moi, ça faisait pas trop partie de la relation à l'époque. Enfin, bien sûr, il y avait tous les moments où on s'occupait d'eux. Enfin, moi, en tout cas, je n'allais pas voir mon poney sans monter dessus. Ou alors si, pour une longe. Pour moi, la relation, ouais, ça se faisait vraiment à cheval. Mais ça, c'est, je dis ça, c'est quand j'avais 12 ans. Hein.
Mais après, ça en fait partie aussi. Hein.
Ah oui, oui, non, mais carrément.
En fait, je mets juste en opposition le fait que Diego, tu lui montais probablement plus dessus. Toi, t'étais privé d'une certaine forme, d'un truc que t'aimes bien faire, quoi. Alors que tes chevaux de confiage, finalement, tu pouvais leur monter dessus. En tout cas, c'est ce qui était attendu de ta part. Et c'était peut-être plus facile aussi pour toi d'avoir une forme de satisfaction dans cette relation, justement, aussi, parce que l'équitation était partie intégrante, entre guillemets, de la relation, quoi.
Et à chaque fois, ça a été un énorme déchirement. C'est comme si je m'y attendais pas à chaque fois. Comme si je me disais, lui, il va rester avec moi. Tu vois, je sais pas si je me le disais vraiment, parce que je savais que, à la fin de la saison, j'allais rendre le poney. Mais je sais pas, je pense qu'il y avait une partie de moi qui espérait que j'allais le garder, tu vois. Après, j'ai eu la chance. Je pense d'être tombée quand même. Je pense que, mine de rien, à l'époque, je savais déjà choisir un peu des bons élevages, on va dire. C'est-à-dire qu'on me forçait pas au résultat. On me félicitait même quand j'avais fait des barres. On me mettait pas la pression. Et donc ça, c'était très chouette. Et donc, j'avais aucune pression par rapport au résultat ou quoi. D'ailleurs, j'ai jamais fait de saison de concours incroyable. Donc, ouais, jamais fait d'énormes résultats. Mais ouais, j'avais le temps de vraiment créer une belle relation avec chacun. Souvent, c'était un an. Je gardais un cheval un an et puis après, je changeais. Mais à chaque fois, ouais, c'était trop dur. C'était vraiment trop dur. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop parce que je pouvais plus. Mais je me suis fait confier des chevaux très longtemps parce que j'ai commencé, j'avais, ouais, 12 ans. Et mon dernier cheval, j'avais déjà créé ma chaîne YouTube. Donc, mon dernier cheval, j'ai dû le rendre à 20 ans, peut-être.
À partir de quel moment tu t'es lancée dans le monitorat?
J'ai passé le diplôme il y a 2 ans. Enfin, je l'ai eu il y a 2 ans.
Et donc, le moment où on descend de cheval, c'est pendant les confiages ou c'est après?
Pendant toutes ces années où je me suis fait confier des poneys pour la compétition, j'étais dans une écurie, donc une pension pour chevaux, où d'ailleurs je suis toujours aujourd'hui, où donc c'est là où je mettais mes poneys confiés, puisque les poneys, je les avais pas à l'élevage, je les prenais chez moi, je payais leur pension, voilà. Du coup, dans cette idée d'être tranquille avec mon poney, quoi. Et donc dans cette écurie, il y avait un petit poney B qui était très mignon et qui était un petit peu connu envers chez moi, parce qu'il avait été monté par une bonne cavalière et qu'il avait fait des beaux concours. Alors que c'est un tout petit poney. Et il faisait des belles épreuves. Et du coup, c'était un poney vraiment qui était très impressionnant, même s'il était tout petit. Et ce poney appartenait au gérant de ma pension, où j'étais. Et donc, très vite, je lui ai demandé si je pouvais m'occuper de ce poney. Et donc, il me l'a confié. Donc, en fait, je me retrouve avec mon Shetland. Ce poney, donc Kennedy, qui m'était confié à la pension. Après, il m'en a confié plein d'autres aussi. J'ai fait aussi la valorisation de ses chevaux, mais là, c'était des chevaux de club. Voilà, souvent, ils partaient en club, ce genre de choses. Et en même temps, j'avais un cheval, un peu de concours à chaque fois. Et donc, ce petit poney, vraiment, ça a été un peu ma révélation, on va dire. C'était vraiment mon coup de cœur. Et vraiment, aujourd'hui, je l'appelle encore comme ça, c'était le poney de ma vie, quoi. S'il ne devait y en avoir qu'un, ça aurait été lui. C'était pas comme les autres, on va dire. Et donc, avec ce poney, j'ai tout naturellement commencé à faire des séances où, en fait, je le montais pas et où je le mettais dans le manège. Au début, c'était juste pour le faire courir. Après, j'ai commencé à travailler à pied. Mais tout naturellement, j'y connaissais rien. J'ai commencé à faire de la cordelette, à faire un peu du stick to me, enfin, des choses comme ça. Et voilà, ça a commencé comme ça.
Finalement, ça a commencé avec un poney qui te plaisait, mais surtout avec un poney pour lequel il n'y avait pas de projet, quoi.
Et totalement, oui.
Du coup, je suppose que la Léa d'il y a quelques années, donc elle est ado, elle a son petit poney qu'elle ne peut pas monter. Subterfuge, on prend du confiage sur de la valorisation, comme ça on peut monter. En même temps, on est dans une écurie où il y a des chevaux trop chouettes sur lesquels il n'y a pas cette notion de performance, même si... On a bien compris que tu n'étais pas attendu sur les résultats. Il y a quand même ce contrat de départ qui est que...
Fallait quand même sortir en concours.
Voilà. Et puis que les chevaux connaissent le job, entre guillemets, pour qu'ils puissent être vendus. C'est quand même une Léa qui doit être tout le temps, en fait, à la pension, quoi.
Totalement.
Okay. Du coup, c'était hyper naturel que tu décides d'enseigner. Enfin, ça t'est venu à quel moment d'avoir envie d'enseigner ou en tout cas de passer ton monitorat et tout ça? Juste parce que tu ne te voyais pas faire autre chose, parce que tu faisais déjà... pas autre chose, ou parce qu'il y avait cette envie de transmettre ou quelque chose de plus grand?
Quand j'étais ado et qu'on a commencé à me parler au collège, lycée, d'orientation, moi je détestais l'école déjà. Je détestais ça. J'avais vraiment... Je voyais ça comme une prison. Bon, aujourd'hui, je dirais plus ça. Mais à l'époque, c'était ça. Et j'avais l'impression d'être heureuse seulement quand j'étais aux écuries. Donc effectivement, j'y allais. En plus, j'avais la chance d'avoir un scooter. Donc j'y allais tous les soirs après les cours, tous les week-ends, tous les mercredis après-midi. Enfin, j'y passais ma vie, quoi. Et très vite, j'ai commencé à dire à ma maman que je voulais en faire mon métier. Elle a eu la brillante idée de m'emmener voir plein de professionnels du monde du cheval pour qu'ils me disent leur avis. Et en fait, ils m'ont tous découragée.
C'est bizarre, je suis pas étonnée par la réponse. Et je trouve ça tellement triste. Non, mais c'est vrai, il y a une tristesse profonde. Et toi, auditeur qui écoute notre conversation, ne le sais pas encore, mais on va avoir un moment là-dessus, vraiment, dans cet échange avec Léa. Il y a une forme de tristesse dans notre milieu. C'est soi-disant des métiers passion. Et à chaque fois qu'on pose la question à plein de gens, on sent que la passion s'est éteinte à cause de plein de raisons différentes qu'on va évoquer. Enfin, du coup, c'est pour ça que je dis, je suis pas étonnée par la réponse et en même temps, c'est tellement triste, quoi.
Ouais, ouais. Et on est allé voir pas mal de monde. Hein. On est allé voir des gérants de pension, justement des cavaliers qui faisaient de la valorisation, des cavaliers un peu pros. On est allé voir aussi, je pense, des monitrices. Je me souviens plus de tout. Bon, on est allé faire pas mal de tours dans des écuries.
Ouais, puis t'as vu plusieurs corps de métier. En tout cas, c'est chouette. Ta maman, quand elle t'a proposé ça, c'est parce qu'elle avait déjà un a priori.
Oui.
C'était pas une démarche genre vraiment, ok, ma fille, allons voir ce qu'il est possible de faire et tout. Oui, c'était un peu biaisé, quoi.
Bah, après, ma mère a toujours voulu me soutenir très fort dans ce que je faisais et elle m'aurait jamais dit non. Mais elle voulait vraiment que je voie la réalité des faits parce qu'elle le savait, elle, que c'était pas si facile que ça de vivre des chevaux. Alors même si elle est pas du tout du milieu, mais je pense qu'elle, ça se voit en fait même de l'extérieur. Hein. Les gens qui font ce métier, souvent effectivement, ils ont l'air très fatigués, ils se plaignent pas mal et tout. Et je pense que ouais, elle a voulu un peu me dire attention quoi, sans que ça vienne de ses mots. Et donc ouais, ils m'ont tous vraiment dit de faire un métier qui gagne, enfin qui paye bien, et de faire de l'équitation le week-end. Mais vraiment tous. Il y en a pas un qui m'a dit ah oui, lance-toi et tout si c'est ta passion. Non, pas un.
C'est fou. Je trouve ça complètement fou. J'ai une question quand même. Est-ce que dans l'eau, t'es allé voir des gens qui entre guillemets avaient une petite réputation, une forme de réussite?
Oui.
Et même eux, t'as eu ce discours-là. Donc c'était pas lié, on va dire, à...
C'était pas des gens où ça marchait pas. Non, c'était des personnes qui, justement, marchaient bien. Ouais, qui faisaient, enfin, dans la région, en tout cas, qui étaient connues, voilà, qui fonctionnaient bien, quoi. Mais voilà, donc ça, je devais être, ouais, peut-être début lycée. Et en fait, j'avais eu envie de me réorienter pour partir dans un bac pro CGEH, je crois que c'était. C'est gestion d'une entreprise hippique. Et j'ai fait les sélections et tout, j'avais été prise. Et au final, j'ai renoncé parce qu'on m'a fait peur, en fait. Enfin, vraiment, tout le monde était là à me dire « Non, non, mais n'y va pas, hein. » Vraiment.
C'était quoi les raisons évoquées?
C'était que j'allais pas avoir de temps pour moi, que j'allais pas gagner d'argent et que, en gros, ça allait me dégoûter de ma passion, que ce serait plus une passion.
C'est à peu près toutes les raisons qui me semblaient... évidente qu'on t'avait dit. Je cherchais s'il y en avait pas une cachée que j'aurais pas vue, mais ok.
Non, ouais, c'était à peu près ça. Donc au final, j'ai refusé de partir en bac pro et je suis restée en général avec cette idée, tu sais, ce qu'on dit à tout le monde, c'est fais des études générales et puis après, tu verras si tu veux te spécialiser et tout. Aujourd'hui, je regrette de pas avoir fait de bac pro parce que c'est beaucoup plus simple dans mon projet justement. Mais voilà, mais en fait, cette idée m'a pas quittée pour autant. Je me suis dit, bon, ok, je reste en général. Je travaillais pas, mais j'avais quand même des facilités dans le sens où je savais que j'avais pas besoin de travailler pour réussir le minimum, on va dire, pour les études. Donc, j'ai passé mon bac, mais toujours avec cette idée de me dire que je voulais travailler dans les chevaux. Mais je me l'interdisais aussi, enfin, je pense que je me l'interdisais. Ou je m'interdisais d'y penser vraiment, ou de rendre ça concret. Mais je regardais le BPJS, je me renseignais pour être monitrice et tout.
Donc là, tu étais en train de passer ton bac, donc tu étais encore au lycée.
Oui, donc j'ai passé mon bac, sauf que je l'ai passé en retard pour une bêtise, mais en gros, je me suis pas réveillée pour une épreuve. J'ai faké une excuse comme quoi j'étais tombée de scooter et j'ai pu repasser l'épreuve. Donc, je l'ai passé plusieurs mois après. Donc, en fait, j'étais inscrite dans aucune fac, puisqu'il fallait que j'aie le bac pour m'inscrire en fac. Donc, je me suis inscrite dans aucune fac. Et du coup, une fois que j'ai eu le diplôme, on était déjà, je crois, en septembre, quelque chose comme ça. Donc, la rentrée était déjà faite. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un boulot alimentaire pour me payer mon sport, donc l'équitation. Et continuer de monter à cheval, en fait, à côté, et continuer d'évoluer à cheval surtout. Et là, prendre un coach, parce que pendant longtemps, j'étais un peu sans coach. Et en même temps, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et ma chaîne YouTube, je me suis dit, bon, bah, si je peux pas vivre des chevaux comme je le voulais, c'est-à-dire avoir une écurie ou être monitrice, ce genre de choses, parce que c'est trop dur, je vais faire une chaîne YouTube sur les chevaux. Et puis peut-être qu'un jour, j'en vivrai. J'avais deux passions. C'était la vidéo, l'audiovisuel et les chevaux, bien sûr. Enfin, les chevaux, l'équitation. Et du coup, j'ai cherché un moyen de faire un peu les deux. Parce qu'en fait, pour moi, je suis incapable de travailler dans quelque chose qui me passionne pas. Mais ça, il a fallu que je le fasse pour m'en rendre compte.
Ok, donc, t'as ton bac, tu te retrouves dans une sorte d'année blanche, tu prends un taf alimentaire, tu te lances sur YouTube. Là, tu trouves ça chouette parce que finalement, tu fais tes histoires avec tes poneys, tu les filmes et du coup, tu peux transmettre tes messages. Donc, il y a quand même une notion de transmission, en tout cas de dire des choses et que tu puisses être entendu, quoi.
Ah oui, totalement. Ouais, ouais. J'avais ce besoin, en fait, qu'on m'entende un peu. Je pense que j'ai commencé ma chaîne YouTube comme ça. J'avais des choses à dire et j'avais des choses à partager. Ouais, j'avais l'impression que toujours, dans mon parcours équestre, justement, en plus j'étais dans un milieu qui était quand même assez spécial, le milieu très concours et tout. Personne ne me prenait jamais vraiment au sérieux, on m'écoutait pas. Je me sentais frustrée, j'avais l'impression de bien comprendre les chevaux, mais de pas être prise au sérieux, ouais, parce que j'étais jeune, parce que j'étais petite. Et du coup, j'avais besoin de dire des choses, en fait. J'avais besoin de m'énerver, parce qu'au début, je m'énervais.
À partir de quel moment tu t'es dit, si j'ai quand même envie de devenir monitrice, parce que justement, j'ai envie de montrer la conclusion que j'en fais. Après, c'est peut-être pas la bonne, mais c'est que du coup, il y a un moment donné, c'est à rattraper, parce que le plus court moyen pour montrer aux gens qu'on peut faire différemment, c'est de leur apprendre à faire différemment, non?
Oui.
À quel moment ça t'a rattrapé? À quel moment tu t'es dit, en fait, je m'en fous de la vie des autres, si eux, ils sont pas heureux, moi, je veux faire ça?
C'est une très bonne question. C'est venu en même temps que ma chaîne YouTube, en fait. Je me suis rendu compte déjà que j'étais pas la seule à avoir cette vision de l'équitation, loin de là, que beaucoup de personnes comprenaient ce que je disais, et même des fois, et je trouvais ça dingue, on me mettait un peu sur un piédestal de « Ah mais regardez, elle a tout compris un peu. »
Ego boost.
Ouais, c'est un peu ça.
Ça fait du bien, on en a tous besoin.
Ouais, ouais, je me suis un peu dit, ah oui, est-ce que vraiment mes paroles ont un impact ou est-ce que ça peut aider? Est-ce que, enfin, voilà, j'ai commencé à me rendre compte que, en fait, j'avais la possibilité, moi, à mon niveau, d'agir un petit peu pour la cause animale. Après, bon, je me suis aujourd'hui orientée beaucoup sur le bien-être du cheval, mais toute cause animale. Très importante pour moi. Mais ouais, je pense que cette idée de donc reprendre les études pour devenir monitrice, ça m'est venu avec YouTube. Mais je ne saurais pas dire exactement à quel moment. Et au début, je m'interdisais de passer la formation parce que je pensais justement que ça allait être trop maltraitant. J'avais un a priori dessus, vraiment à me dire... ça va être de l'équitation classique avec un peu la vieille méthode et tout. Enfin, j'avais vraiment des a priori et je me disais que vraiment j'allais pas réussir à, enfin que j'allais devoir fermer les yeux surtout sur beaucoup de choses parce qu'en plus on est du coup quand on passe le BPJEPS donc pour être moniteur, on est la plupart du temps en centre équestre en train de donner cours donc dans des centres équestres et je regardais les centres équestres autour de chez moi et je me disais oh, c'est pas possible. Enfin, je me sentais incapable d'aller là-bas, de donner des cours et de devoir fermer les yeux sur les conditions des chevaux, par exemple. Et donc, j'ai essayé de trouver des alternatives. Il faut savoir que quand on veut travailler dans le milieu du cheval, je pense que le diplôme le plus important à avoir, c'est le BPJEPS.
Et on va le redire à voix haute, une ou deux fois. Le plus important à avoir, c'est le BPJEPS. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste le plus important. Et je sais qu'il est décrié comme diplôme, mais ça reste un diplôme avec une certaine valeur, avec une notion d'assurance, avec enfin, des choses qui sont importantes.
Avec une notion de légalité aussi.
Et donc, personne n'est habilité à vous faire monter à cheval, sauf des personnes qui ont passé un BPJEPS. Voilà, c'est la loi française, il faut le savoir. Après, si vous voulez prendre des cours avec des gens qui n'ont pas leur diplôme, c'est votre responsabilité, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul diplôme. Et il y a plein de choses à redire, bien sûr, sur le BPJEPS, et je pense que tu vas nous le dire, Léa. Mais visiblement, il y a quand même aussi des choses pas si mal que ça, parce que tu as dit qu'il t'avait des a priori. Ça veut dire que tu as fait aussi des découvertes qui n'étaient pas si négatives.
Totalement. J'ai été très agréablement surprise. Alors, du coup, j'ai mis plusieurs années à me lancer, hein, parce que vraiment, je me disais, non, c'est pas possible, je peux pas. Je peux pas passer le diplôme, je peux pas. En plus, il fallait monter à cheval. Faut avoir un bon niveau hein, pour passer le BPJEPS. On a des TEP, ça s'appelle, des tests d'entrée, tests d'exigence préalable, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est l'ancien niveau de sortie du BPJEPS. Donc, c'est-à-dire qu'avant de rentrer en BPJEPS, il faut déjà avoir le niveau d'un moniteur.
Donc, c'est un équivalent à un galop 9, je crois.
C'est galop 8 en soi.
Et oui. Il y a deux autres galops au-dessus du galop 7, pour ceux qui ne le sauraient pas.
Ouais, bah aujourd'hui, on appelle plus ça comme ça, on appelle ça des degrés. Moi, du coup, je sais plus quel degré, degré 2, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, bref. Mais oui, donc en fait, voilà, il faut déjà avoir ce super niveau galop 7++ pour rentrer. Et moi, à cette époque-là, en fait, j'avais arrêté l'équitation. Parce que j'ai arrêté l'équitation quand j'ai eu justement mon deuxième poney, que j'ai commencé ma chaîne YouTube et que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui... malheureusement pour moi, n'allait pas dans l'équitation. J'ai eu un dégoût un peu de ce sport pendant une période. Et du coup, ça a été dur. Il a fallu que je me remette à cheval pour déjà pouvoir rentrer au BPJEPS. Donc bon, mais j'ai fini par le faire parce qu'en fait, c'était trop important pour moi, je pense. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est un an de ta vie. Et puis, ça se trouve, tu vas pouvoir apporter plein de choses négatives, enfin positives plutôt, par rapport à ça. Et non, ça a été une très belle surprise. Pourtant, je suis pas allée, comment dire, à Nantes. En tout cas, on a deux centres de formation pour le BPJEPS. Un qui est connu plus pour justement par rapport au bien-être équin. On va faire un peu du travail à pied. On voit des choses comme ça. Et un autre qui est moins connu pour ça, mais beaucoup plus réputé. Parce qu'il est là depuis, c'est un centre de formation qui est là depuis très longtemps, établi depuis très longtemps. Et j'ai été pris dans les deux. Et en fait, je me suis surprise à aller dans le deuxième, donc celui qui avait une meilleure réputation, alors que j'étais convaincue que j'irais dans le premier centre de formation parce que c'était plus dans mes valeurs. Mais lors des sélections, je sais pas, je l'ai mieux senti, enfin c'est personnel, hein, mais je l'ai mieux senti dans le deuxième parce que je me suis tout de suite fait des amis, un peu, enfin des personnes en sélection où, qui étaient super, voilà, super sympas avec moi et tout, on a bien échangé. Du coup, je suis partie dans le deuxième pour ça. Parce que bon, le côté réputation, je m'en fichais un peu. Hein.
T'as privilégié l'humain, c'est-à-dire le contact humain du deuxième.
Ouais, totalement, ouais, c'est ça. Alors que je m'étais dit que je rentrais en formation, que j'allais pas me faire d'amis. Et que j'allais être la seule qui allait me sentir un peu hippie, un peu voilà. Bon, je me définis pas comme ça, mais il y en a beaucoup qui ont pu me définir comme ça.
Le bisounours du
ouais, c'est ça.
De l'équitation éthologique, ouais.
Okay. Et du coup, je me suis dit, mais je vais être la seule qui a ces valeurs-là, qui a voilà. Et au final, mais pas du tout. Je me suis vraiment pris un mur, mais dans le bon
sens.
Ouais, dans le bon sens quand je suis arrivée, parce qu'en fait tous les élèves, leur préoccupation première, c'était le bien-être des chevaux, et dans nos cours aussi, en fait ça a été mis en avant toute l'année, même si les chevaux avaient pas forcément, les chevaux de formation je parle, avaient pas forcément les meilleures conditions de vie, parce que ils étaient quand même au box une bonne partie du temps. On essayait de les sortir au mieux. Et en fait, que ce soit les formateurs ou les élèves, on s'en occupait super bien. Et en fait, ça a été que surprise en surprise. C'est-à-dire, dès le premier jour, on nous a dit, par contre, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la salle tant que vous n'avez pas dit bonjour aux chevaux. Ça, c'est tout bête. Mais en fait, dès le début, on nous a dit, par contre, vous respectez nos chevaux. C'est la priorité. Et déjà, ça, je me suis dit, ah ouais.
Je trouve ça hyper intéressant que tu nous partages ce retour d'expérience, parce qu'on décrit beaucoup ce diplôme et... Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il y a des raisons pour lesquelles il est probablement décrié aujourd'hui, ou en tout cas pointé du doigt. Peut-être que c'est dû aux différents centres de formation, et qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, justement, et que ça montre qu'il y a un renouveau, et que du coup, c'est positif par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont ce discours. Enfin, moi, je l'ai entendu ces deux dernières années, depuis que j'ai le podcast aussi, tu vois, le... Oui... Mais en gros, pour être moniteur, c'est trop dur. Enfin, c'est trop dur dans le sens où si on y va avec ses valeurs, soi-disant de bien-être animal et de bien-traitance, on ne peut pas supporter de passer une année à faire un monitorat. Ce n'est pas un discours que tu es la seule à tenir, tu vois. Enfin, y a plein de gens qui ont cette idée en tête. Pour toi, c'était un a priori parce que justement, tu as eu une expérience positive. Il y a peut-être d'autres endroits où justement... Ben, c'est malheureusement pas aussi positif. Mais je trouve ça intéressant que tu aies l'honnêteté de nous dire j'avais plein d'a priori et finalement, ouais, c'est pas parfait, mais en tout cas, c'était moins pire que ce que j'ai pu croire.
Non, et puis c'était, en fait, c'était vachement humain surtout. Enfin, humain dans le sens où c'était déjà, les formateurs étaient très respectueux de leurs élèves et de leurs chevaux aussi. Et on était beaucoup dans la communication, c'est-à-dire qu'ils le savaient qu'il y avait, parfois, ils faisaient, enfin, il y avait des couacs. C'est le directeur de formation, au début de l'année, je m'en souviens, il était venu me voir. Et puis, parce qu'il y avait un cheval, en fait, qui montrait des signes de réticence. C'est-à-dire qu'il plaquait beaucoup les oreilles en arrière, il nous mordait pas, mais il nous montrait un peu les dents. Je m'occupais de ce cheval que j'adorais. Je trouvais très chouette et on essayait au mieux de rendre nos moments ensemble les plus positifs possibles, quoi, pour qu'ils se sentent mieux. Et le directeur de formation était venu me voir et il m'avait dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais là, juste l'emmener au pré, tu verrais comment il est quand je le mets chez moi au pré. Il est tellement heureux et tout. Et, enfin, tu vois, il le sait qu'il est comme ça parce qu'il est au boxe. Après, ils ont dû faire des choix pour la formation, d'être dans une structure qui permet d'avoir des salles, d'avoir des infrastructures. Et malheureusement, les chevaux ne pouvaient pas sortir toute la journée, quoi. Mais ils étaient conscients de leurs faiblesses et ils en parlaient ouvertement. Tu vois, donc c'est ça que j'ai trouvé trop chouette, en fait. Et ça m'a beaucoup adoucie. Je me disais pas, en fait, d'un point de vue extérieur, quand tu vois par exemple un cheval qui a l'air de souffrir au box, tu vas te dire ah bah le propriétaire fait pas ce qu'il faut, tu vois. Et j'étais un peu comme ça. Je mettais oui des a priori. Enfin j'avais un peu la critique facile, on va dire. Et cette formation, elle m'a permis de me rendre compte que parfois on fait le meilleur choix avec ce qu'on a et qu'en fait il peut y avoir de très bons cavaliers, très bons dans le sens pas bons techniquement, mais bons. Des bonnes personnes qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Après, bon, tout ça, c'est aussi un débat. Hein.
Non, mais un débat qu'on va avoir, puisque, en fait, dans ce que tu nous partages, c'est que tu nous expliques que même dans votre apprentissage, vous êtes finalement confrontés à des choix qui sont faits et comment vous devez construire et composer autour de ces choix qui ne sont pas forcément vos choix idéaux de départ, mais qui est aussi une forme de réalité. C'est-à-dire que quand tu deviens moniteur, tu rejoins une structure. Je veux dire, tous les moniteurs n'ont pas le temps, l'énergie, l'envie d'ouvrir leur centre. Beaucoup vont aller faire leurs armes en allant dans des centres qui existent déjà, qui ont des conditions qui sont celles qu'elles sont. Enfin, et ils vont devoir composer en fait avec ça. Rien que dans l'apprentissage, d'avoir cette ouverture de dialogue, de dire « Ok, c'est pas idéal, comment on fait pour améliorer, comment on traite ce genre de circonstances, en fait ?» Oui, c'est ça, c'est déjà une forme d'ouverture qui colle un peu, malheureusement, aussi à la réalité de ce que va être demain, en fait, ce quotidien des moniteurs, quoi.
Oui, 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 totalement. Mais même plus généralement, je veux dire, en tant que personne, ça m'a aidé encore plus à être bienveillante. Parce que parfois il y a des, ouais, il y a vraiment des bonnes personnes qui font des choses qui extérieurement on se dit ah c'est quand même pas terrible quoi, mais enfin tu te rends compte que ils composent avec ce qu'ils ont et ils font ce qu'ils pensent être le mieux. Et d'ailleurs je pense que c'est beaucoup le cas chez les cavaliers, on fait souvent ce qu'on pense être le mieux pour nos chevaux
avec les connaissances qu'on a à l'instant.
Avec les connaissances qu'on a, ouais, totalement. Et voilà. Après, bon, le côté centre d'apprentissage, donc en club, c'était plus dur. Les conditions des chevaux en club, c'est encore une autre histoire. C'est très difficile et on voit bien. Enfin, aujourd'hui, moi, je le vois. Hein, les clubs, ils ont tous beaucoup de mal à s'en sortir.
Quand tu dis, tu peux être plus spécifique
sur le fait qu'ils ont du mal à s'en sortir.
Ouais. Qu'est-ce que t'entends par là? S'en sortir sur quoi? S'en sortir financièrement? S'en sortir sur le mental et la bientraitance des chevaux? S'en sortir sur le temps à consacrer pour que ça tourne? Il y a beaucoup de sujets, je trouve, derrière le s'en sortir, en fait.
Oui, c'est vrai. Bah, tout.
Voilà, je prends tout.
Non, non, mais que ce soit effectivement financièrement, c'est très, très dur de faire tourner un club et de le réussir à l'avoir rentable. Que ce soit aussi réussir à bien s'occuper de parfois une soixantaine de chevaux, voire plus. Moi, j'étais très relou avec ça quand j'étais en apprentissage. J'étais très relou sur mes 35 heures. Ok, pour moi, c'est un droit. J'avais mes chevaux à la maison, j'avais mes chiennes, j'avais YouTube, j'avais beaucoup de choses et du coup, je ne dépassais pas 35 heures dans la semaine accordée, donc que ce soit à la formation et au centre d'apprentissage. Mais tous mes autres collègues de formation, malheureusement, ils faisaient 45, 50 heures par semaine. Enfin, ils faisaient des journées, mais énormes, parce que le centre équestre avait trop besoin d'eux.
Je pense que ça, c'est un gros tabou de notre milieu, mais moi, j'ai quand même beaucoup de mal à être rancunière, énervée, négative à propos des coachs ou des moniteurs. Enfin, quand je dis coach, souvent, je parle du coach du club, quoi. Parce que ils font un métier qui est quand même extrêmement difficile. Ils font des choix et ils gèrent une écurie dans le sens où ils gèrent le cheptel, ils gèrent l'humain. Combien font, comme tu dis, 50 heures, 60 heures par semaine, voient très peu leur famille.
Ou d'ailleurs n'ont pas fait de famille. Moi, j'en vois beaucoup. Hein.
On en revient à ce qu'on disait au début. C'est triste parce que souvent, on fait ce métier par passion et on perd la passion parce que le quotidien, aujourd'hui, n'est pas fait pour qu'on puisse bien en vivre. Je ne vais pas spoiler la fin de l'épisode, même si cet épisode est déjà long, mais je vous jure, je suis désolée, ça va être un épisode très long. On a beaucoup de choses à dire avec Léa. Parce que j'aimerais qu'on prenne 5 minutes quand même pour... Enfin, 5 minutes, un peu plus du coup, 15 minutes, pour parler de ton projet, vraiment. Et qu'est-ce que toi, tu veux proposer? C'est-à-dire, quelle est la nouvelle forme, en fait, d'équitation qu'on peut proposer? Parce que aujourd'hui, on a des centres équestres qui fonctionnent sur une formule où tu viens monter une fois ou deux fois par semaine. Donc, tu as un cheptel. C'est un cheptel qui est censé être mixte pour pouvoir aussi bien servir les débutants que les cavaliers un peu plus expérimentés. Un peu de dressage, un peu de CSO pour les plus chanceux, un peu de travail à pied. Et encore, on se plaint beaucoup qu'il n'y ait pas assez de travail à pied dans les clubs, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils démarrent l'équitation, c'est pour être sur le cheval, parce que c'est l'image qu'on leur a diffusée. Donc du coup, les cours de travail à pied sont souvent boudés. Enfin, moi, je me souviens, les cours de stage de longe dans mon club, c'est pas ceux...
Bah ouais, mais stage de longe déjà.
C'était stage de longe, entre guillemets, ils ne savaient pas comment l'appeler autrement. C'était pour les bases du travail à pied, où tu vois, il y avait un peu des longues rênes, ce genre de choses. Et c'était pas du tout ce qui intéressait les gens.
Parce que je pense qu'aussi, à l'époque, on expliquait pas non plus. Il n'y avait pas beaucoup de place à... Je sais pas, tu vas pas dire, bon bah là, tu mets ton cheval sur le cercle, en gros, tu vas déplacer les épaules pour que... Nanana. Enfin, t'expliquais pas. Tu disais, moi, tu pousses au cul, et puis tu dis trotter pour qu'il boire au trot, tu vois.
C'est schématiquement, c'était un peu mieux que ça quand même, parce que moi, c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai quitté le club il y a que 3 ans, donc il y avait quand même déjà un peu de marge, mais ça intéressait pas les gens. Modèle de club, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on a souvent beaucoup de chevaux qui servent différents niveaux, qui n'ont pas toujours des conditions de vie terribles parce que manque de place souvent, et puis pas que manque de place, après manque d'humains aussi pour gérer l'environnement quand il y a beaucoup de place. Tout ça avec un prix qui se doit d'être de plus en plus accessible, parce que c'est intéressant de démocratiser l'équitation pour que le plus grand nombre puisse en profiter, malheureusement parfois, donc au détriment des humains qui y travaillent et des chevaux aussi. Alors, toi, ce modèle-là, du coup, tu finis ton monitorat, tu dis « moi, je veux pas ça ».
J'ai fait toute mon année en me disant « ah là là, il faut faire autre chose, il faut faire quelque chose d'autre ». Et puis, c'est ce qu'on nous disait en formation tout le temps. Enfin, ce qu'on connaît aujourd'hui, l'heure, le consommable, enfin l'heure d'équitation, ça va disparaître. Ça va finir par disparaître. Enfin, en tout cas, on l'espère.
Toi, ton idée, c'est de te dire, moi, je veux créer des binômes pour le cheval, mais aussi pour l'humain. Ou plutôt pour l'humain, parce que toi, c'est ce que tu recherchais quand t'étais kids. Mais aussi pour le cheval, parce qu'il y a un intérêt pour le cheval à ce qu'il y ait des binômes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Je trouve, personnellement, avoir eu de la chance dans mon parcours, parce qu'on m'a fait confiance plusieurs fois pour me confier des chevaux. Et c'est un peu ce que j'avais envie de proposer à d'autres cavaliers, c'est-à-dire leur faire confiance aussi et leur mettre à disposition, on va dire, un poney. Mon projet, c'est de proposer de la demi-pension encadrée. J'appelle ça comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas si ça restera ce terme-là. Donc, c'est-à-dire que c'est une demi-pension. Donc, on paye tous les mois pour pouvoir avoir un cheval dont on vient s'occuper plusieurs fois par semaine. Et il y a un cours par semaine qui est compris avec cette formule. Et ce cours, il est pas là forcément pour apprendre à monter à cheval, il est là pour apprendre à s'occuper, à entretenir et à travailler évidemment un cheval de A à Z pour devenir autonome. En fait voilà, c'était vraiment ça l'idée, c'était non plus juste d'apprendre l'équitation, enfin de faire apprendre l'équitation, mais de pouvoir vraiment proposer une formule qui te permet d'apprendre tout ce qu'il y a autour du cheval. Et tout ce qui est important pour, oui, être responsable d'un cheval, on va dire.
En fait, on n'est plus simplement cavalier, grâce à ta demi-mention encadrée, mais on apprend à être homme ou femme de cheval, c'est un peu l'expression du moment. C'est-à-dire, c'est quoi un cheval? Qu'est-ce qu'il faut observer? Comment il s'exprime? Comment il se comporte au naturel dans son environnement? Comment il se comporte avec moi? Quels sont les signaux qu'il m'envoie? Comment il apprend? Comment du coup je peux lui apprendre moi des choses? Jusqu'à la partie plus pratique qui est celle qu'on connaît habituellement en centre équestre, mais qui fait aussi partie de la formule, qui est comment j'évolue à pied, comment j'évolue monter, etc., etc.
C'est ça. Et avec quand même une grande partie à pied, parce que c'est vrai que pour moi, plus j'évolue dans ce milieu, plus je me rends compte de l'importance du travail à pied, que ce soit dans la relation, mais aussi dans l'apprentissage de l'équitation pour le cheval aussi. Et c'est vraiment un outil incroyable et qui est très, très peu enseigné, en tout cas dans les clubs. Donc aujourd'hui, les cavaliers, quand ils viennent me voir, qu'ils prennent une demi-pension chez moi, généralement, ils savent tous monter à cheval, mais ils ne savent pas bouger les pieds des chevaux. Voilà, ils n'ont pas les bases à pied. Donc je passe beaucoup de temps à leur enseigner déjà ces bases avant d'aller plus loin, en fait.
C'est mon histoire. Iggy, j'ai démarré le travail à pied avec Iggy, pas parce que j'avais fait 2 stages et demi... de 12 heures, tu vois, que je savais faire du travail à pied. Pourtant, j'ai longé beaucoup de chevaux, hein, gamine. C'est pas la question, mais c'est encore autre chose.
Dans les galops, aujourd'hui, il y a toute une partie de travail à pied, mais bon.
Il y a de la longe. Après, longer un cheval dans un rond de longe et longer un cheval dans une carrière, c'est pas la même chose. C'est là où tu comprends que quand t'as le rond de longe t'aide beaucoup.
Ah bah oui.
Voilà. En fait, je trouve ça hyper intéressant et c'est pour ça que ton projet me parle autant et que j'avais envie de t'inviter aussi dans le podcast, c'est que c'est ma conclusion à moi, parce qu'elle est liée à mon expérience. Finalement, il a fallu que je devienne propriétaire pour vraiment pouvoir descendre de cheval, apprendre à... Et pourtant, j'ai eu des demi-pensions et tout ça, c'est pas la question, mais c'est une expérience totalement différente de devenir propriétaire de son cheval. Parce qu'on accède en fait à tout un quotidien qu'on ne voit pas tant qu'on est cavalier de club, parce que justement ce quotidien il est assumé par le gérant du club, le coach, le palefrenier, enfin tous les gens qui vont travailler autour des chevaux et qui nous rendent le cheval entre guillemets disponible pour notre heure d'équitation. Et du coup c'est une grande différence de paradigme entre venir monter une fois par semaine où c'est notre moment de détente et devenir la personne qui est responsable de tout ça sans savoir en plus comment faire puisque ben, tout cet apprentissage-là n'a pas été dispensé. Alors après, c'est pas tout à fait vrai parce que il est possible aujourd'hui de faire des demi-pensions, pas forcément en club, auprès d'autres propriétaires et souvent c'est là où on commence à toucher un peu du bout du doigt justement le quotidien, mais vient se poser plein d'autres questions qui est le rapport qu'on peut réussir à avoir avec le propriétaire, justement, qui est, là après ça va être de l'humain, qui est plus ou moins évident pour certaines personnes, pas toujours. Et puis les demi-pensions de club qui sont plus rares, mais quand elles arrivent, qui sont quand même pas évidentes parce que souvent, c'est pas parce qu'on va avoir ce cheval-là en demi-pension qu'en fait ce cheval disparaît, entre guillemets, des autres... horaires de cours.
Il en fait juste plus.
Ouais, il en fait plus. Ou il en fait pas forcément plus, mais en tout cas, il fait à côté, ce qui fait que ce que toi, tu construis sur un pan peut être déconstruit aussi à côté parce que ça peut être très différent. Et du coup, il y a quand même une frustration qui s'installe en général assez rapidement quand t'es cavalier parce que tu te rends bien compte que toi, tu passes un certain nombre d'heures à vouloir mettre en place des choses qui ne sont pas entretenues à côté, voire qui sont contradictoires avec ce qui est fait à côté. Et du coup, est-ce que c'est très juste ou pas pour le cheval? C'est compliqué pour lui parce que toi, tu lui autorises certaines choses qui ne sont pas autorisées à côté. C'est assez chouette ce projet qui est de te dire, en fait, venez apprendre à être avec les chevaux et par extension, du coup, à faire des choses avec eux et pas juste venez apprendre à monter à cheval, quoi.
C'est ça. Et c'est aussi apprendre à travailler avec eux pour eux. Ce qu'on va pas forcément faire ce qu'on va pas faire d'ailleurs en club, où en club on se concentre beaucoup sur le cavalier, sur beaucoup le plan fédéral. Donc le plan fédéral c'est suivre les galops finalement. Mais voilà, on va pas vraiment travailler sur le cheval, comment travailler un cheval, comment...
Alors, en tout cas, c'est pas vu par le cavalier ou très peu vu par le cavalier. Je vais faire une petite digression sur la chance que moi j'ai eue dans mon dernier centre équestre, où il y avait des jeunes chevaux et où du coup, forcément, sur les niveaux les plus élevés, on monte plus facilement les jeunes chevaux. Ce qui ne veut pas dire qu'on est capable de monter des jeunes chevaux tout seul. Je mets un petit disclaimer quand même là au milieu. Mais en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants suffisamment bons et aguerris pour qu'il y ait un vrai travail de progression qui soit fait sur ces jeunes chevaux et qui soit logique. Alors, bien sûr que au milieu d'un cours de 10 personnes, ils n'allaient pas nous faire un cours personnel pour nous expliquer pourquoi on était en train de faire cet exercice et pourquoi à celui-là, on n'allait pas lui en demander autant que celui du voisin. Mais ils avaient quand même cette sensibilité-là, ce qui respectait plus ou moins les capacités naturelles du cheval par rapport à leur âge, par rapport à leur capacité d'apprentissage à cet instant T, etc. Mais voilà, c'est tellement succinct ce que nous, on peut en retirer en tant que cavalier parce qu'on le voit une heure par semaine, comme ça. Et on voit bien qu'on ne demande que 2 sessions à la jambe au lieu d'en demander 15. Mais tu vois, voilà. On demande un grand cercle de 40 mètres au lieu de demander un petit cercle au galop de 20 mètres. En fonction de certains coachs, il y a cette sensibilité qui s'installe quand même parce que c'est eux qui sont responsables du travail du cheval, justement. Mais c'est rarement partagé à l'élève ou expliquer où ils n'ont pas forcément le temps de rentrer dans ce détail-là, quoi. Alors que toi, c'est ça que tu vas apprendre à faire justement à tes élèves, c'est faire descendre cette connaissance qui, aujourd'hui, dans les clubs, reste en général au-dessus, au niveau des gens les plus aguerris. Et du coup, ça ne fait pas partie intégrante de l'apprentissage, de comprendre comment tout ça, ça fonctionne pour pouvoir l'apprendre et pour pouvoir le maîtriser, quel que soit le niveau, en fait.
Ouais, exactement. Après, parce que du coup, tu parlais de ton expérience en club. Moi, je parle effectivement que de ce que j'ai connu, donc qui est peut-être sûrement différent.
Oui, et puis moi, j'en ai fait au moins 3, tu vois, et il n'y en a qu'un dans lequel j'ai vu ça. Donc, voilà.
Enfin, oui, je ne doute pas qu'il y ait des bons clubs et des clubs où on apprend peut-être mieux les choses. C'est vrai qu'assez généralement, quand on échange avec les cavaliers, ils ont cette frustration de... Bah oui, ils apprennent à monter à cheval, mais ils savent pas pourquoi ils font les exercices. Ils ne savent pas comment évoluer, en autonomie avec un cheval. On leur apprend pas vraiment à aller vers l'autonomie, en gros. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Pour moi, ça devrait être le but du club. Parce que souvent, en plus, quand on vient en club, alors on vient pour pratiquer l'équitation. Très vite, on vient aussi parce que, justement, on a un chouchou de club. Qu'on n'a pas envie de quitter. Enfin, je trouve, moi, j'en ai connu beaucoup des élèves comme ça. Je leur demandais, mais pourquoi tu continues de venir? Ben, parce que je veux pas laisser tel cheval. Je monte à cheval parce que je veux que toutes les semaines, ben, je puisse le voir et tout. Et enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup ça. Très vite, je pense qu'on est nombreux à avoir eu le rêve de devenir propriétaire.
En tout cas, ceux qui écoutent ce podcast, après.
Oui, logiquement.
Non.
Enfin, on est beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup d'élèves qui rêvaient de devenir propriétaires. Mais en fait, je savais très bien que le jour où ils allaient être complètement perdus. Parce que comme tu disais, et comme tu en as parlé souvent dans ton podcast, en fait, il y a vraiment un fossé entre ce qu'on apprend et la vie avec un cheval, vraiment, quoi. Et c'est ça que j'ai envie, c'est cette zone de flou, là, que j'ai envie de combler. Et pour que ça se passe au mieux possible, même si, alors, faut pas être désillusion, c'est toujours une étape.
Non, mais oui.
Quand on devient vraiment propriétaire. Mais voilà, moi,
j'ai l'émotion après.
Ouais, ah ouais, ouais. Moi, je l'ai fait. J'ai eu 2 cavalières qui ont racheté leur poney, leur demi-pension. Et même si elles ont été avec moi pendant 1 an et qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir, enfin, pas tout, évidemment, mais on a vu beaucoup de bases, et moi, enfin, pour moi, elles étaient prêtes à 100% à devenir propriétaires, bien plus que moi je l'ai été quand je suis devenue propriétaire, et bien plus que beaucoup de monde, et pourtant ça a été dur quand même pour elles, mais je suis restée auprès d'elles pour les aider aussi dans cette transition qui est pas facile. Plus globalement, c'est de créer des couples que j'aime, voir un cavalier et un cheval créer quelque chose, je trouve ça super joli. Et c'est vraiment ce qui me motive en fait tous les jours à faire ce projet. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de potentiellement ne me fermer à aucune vente de mes chevaux, même si je les aime très 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 fort. Je les aime d'amour, mes chevaux. J'ai choisi de vendre mon premier poulain que j'avais depuis 6 ans, au moment où je l'ai vendu. Ça a été super dur. J'ai beaucoup pleuré. Mais en fait, je ne supportais pas l'idée de le séparer de sa cavalière parce qu'on me l'a fait beaucoup de fois. On me l'a fait trop de fois. Je l'ai vécu beaucoup de fois. Et c'est aussi une chance que je veux pouvoir donner en fait aux cavaliers qui viennent chez moi. C'est-à-dire que si un jour ils déménagent ou ils ont la chance de devenir propriétaires. Et en fait, l'année dernière, j'ai dû annoncer à mes cavalières que je déménageais. Et ça a été, je pense, aussi dur pour elles que pour moi. Honnêtement, je pense que j'ai autant pleuré qu'elles. Parce que, en fait, je suis très attachée à mes chevaux, mais je suis tellement heureuse et j'adore tellement voir des couples se former, vraiment, que ça me brisait le cœur de me dire que j'allais en séparer, en fait. C'est vraiment ce qui m'anime, je pense. Bon, au final, je n'ai pas déménagé, malheureusement. Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, elles ont racheté leur poney et c'est fou de me dire que j'ai été à l'initiative de ça, que j'ai permis de créer des couples qui aujourd'hui fonctionnent bien et qui sont heureux et qui se sont vraiment trouvés. Pour les deux qui ont racheté leur poney, vraiment, pour elles le voient vraiment comme le poney de leur vie, enfin le poney qui a ce truc en plus et que je trouve super beau. Moi, j'ai pas eu l'opportunité de récupérer le poney. Et voilà, c'est un truc que, enfin, je me fermerai jamais de porte par rapport à ça parce que je trouve ça trop beau. Voilà, vraiment, je suis touchée quand je vois mes cavalières. Je dis cavalières parce que pour l'instant, je n'ai que des filles. Ça me touche à chaque fois de voir les couples qui se créent. Et puis, je vois à quel point c'est important aussi pour les chevaux.
C'est vrai que moi, c'est un peu la mission que je me suis donnée aussi à travers le podcast. Au final, c'est aider l'humain à faire sa transition, mais pour aider les chevaux à trouver leur humain pour la vie. Parce que eux, en fait, ils sont rarement décisionnaires dans tout ça, quoi. Justement, j'ai envie qu'on donne un peu de temps à ces chevaux. J'avais prévenu que ce podcast serait long, donc j'y vais. J'ai un peu de questions. Comment tu les choisis, justement, ces chevaux? Parce que t'en as plusieurs, que tu puisses avoir plusieurs DP, donc plusieurs cavalières sur plusieurs chevaux. Comment tu les choisis? Où est-ce que tu les trouves? D'où ils viennent? C'est quoi tes critères pour que justement tout le monde soit épanoui en fait au sein de ton projet, mais ensuite au quotidien, puisque pour favoriser une relation, il faut créer un cadre en fait où l'épanouissement il est possible, quoi.
Oui, totalement. Alors déjà, je voulais revenir sur les DP. En fait, aujourd'hui, j'ai qu'une seule DP par poney. Et j'ai beaucoup de mal à me dire que je pourrais en mettre deux. Justement, dans cette idée de je veux créer une relation, en fait. Donc ça, c'est un truc sur lequel je travaille et je réfléchis beaucoup parce que financièrement, c'est une autre histoire. Mais peut-être qu'on en reviendra plus tard. C'est pas la question. Mais je voulais juste revenir sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule DP par poney.
Donc c'est bien une personne.
C'est une personne sur un cheval, ouais. Du coup, est-ce qu'on peut appeler ça une DP? Je suis pas sûre.
Ce serait plus une pension complète.
C'est, ouais, mais moi je les travaille à côté et en fait je me ferme pas la porte à ce qu'ils soient utilisés, on va dire, j'aime pas le terme, mais voilà, pour d'autres activités ou si je les emmène faire une balade ou ce genre de choses, enfin voilà. Donc enfin les cavaliers, en fait ça met aussi un cadre de dire demi-pension, ça signifie que le cheval est partagé. Et j'aime bien ce terme aussi, c'est-à-dire qu'il est partagé entre l'écurie et la cavalière. Enfin, je pense que ça évite peut-être des confusions ou des... C'est un avis, mais bon, je réfléchis à cette question.
Tu viendras nous redire quand t'auras tranché. Non, mais après, effectivement, toi, tu offres un cadre qui est que tu as ton écurie, les chevaux, aujourd'hui, appartiennent à l'écurie. Tu en as, en réalité, la responsabilité dans leur travail quotidien, leur épanouissement, leur hébergement, la gestion des soins, etc., etc. Par contre, ce que tu proposes, c'est un enseignement autour d'une forme de contrat de demi-pension qui est une forme d'exclusivité sur ce cheval-là pour apprendre avec lui, justement, à devenir cet humain de cheval. Et puis après, si c'est 3 jours par semaine ou 5, tu verras bien, tu vois, finalement.
Oui, complètement. Aujourd'hui, je laisse le choix à mes cavalières parce que mon projet n'est pas totalement lancé puisque j'ai des problèmes de structure. Mais voilà, donc aujourd'hui, elles ont le choix parce que elles sont là pour m'aider plus qu'autre chose, en fait. Parce que je peux pas m'occuper de 20 chevaux toute seule. Donc, j'ai quelques demi-pensions sur quelques poneys, pas beaucoup. Parce que officiellement, voilà, le projet est pas vraiment lancé. Et donc, voilà, je leur ai dit dès le début, vous pouvez venir 7 fois par semaine si vous voulez. Ça me dérange pas du tout. Mais en les prévenant qu'un jour, peut-être, ça changerait. Pour l'instant, c'est comme ça. On verra plus tard.
Oui, parce que alors, pour ceux qui auraient pas suivi, juste, je fais une petite aparté rétrospective. Léa a quitté l'écurie dans laquelle elle était il y a quelques mois, dans lequel ton projet avait déjà lieu d'une certaine manière, puisque tu avais des DP, etc., puisque tu avais un endroit. Mais en ce moment, tu es un peu sans écurie fixe. Tu es un peu sans écurie fixe, donc forcément, tu ne veux pas continuer à proposer un encadrement ou à déployer plus que ça ton encadrement tant que tu n'auras pas remis tes valises quelque part qui te permet de vraiment déployer ton projet tel que tu l'as en tête, avec plusieurs cavalières, surtout tes poneys, tout ton cheptel, etc., etc., avec un minimum d'infrastructures, puisque tu n'as pas encore trouvé le lieu qui répond à tous tes critères pour pouvoir faire ça. Mais c'est un work in progress, puisque tu as vu plusieurs lieux, tu travailles activement dessus, et on espère que ça voit le jour là, bientôt.
Ouais, c'est en bonne voie. Mais franchement, c'est pas évident à trouver, mais c'est en bonne voie.
Donc, le projet existe, c'est juste que pour l'instant, il est en pause lié à un problème de structure. Parce que justement, tu es très soucieuse des conditions de vie de tes chevaux et que bah, le dernier lieu que tu avais, il y avait plein de petites choses qui n'allaient pas pour pouvoir avoir cette gestion quotidienne par rapport à tes critères. Et du coup, bah, tu as préféré changer d'écurie, c'est ça ?
En fait, je suis arrivée dans ces écuries, elles étaient en construction. Donc, j'ai pu les louer. Mais on m'avait promis la fin des travaux rapidement. Aujourd'hui, ça doit faire 2 ans. Les travaux ne sont toujours pas finis dans cette écurie. Je n'ai jamais eu de carrière. C'est quand même pas facile de travailler l'hiver sans carrière.
Puis quand tu veux accueillir du public, c'est pas la même chose que quand t'es propriétaire tout seul et que tu décides de t'aménager une carrière en herbe. Il y a un moment donné, il y a des conditions d'accueil aussi pour ta clientèle où c'est normal que t'aies des exigences, quoi.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, je remettrai le lien du projet de Léa en description de l'épisode, bien évidemment, comme ça vous pourrez tout suivre. Et puis, il y a la chaîne YouTube si vous voulez savoir toutes les péripéties.
Oui, la plupart est racontée sur la chaîne YouTube, oui.
Qui sont tous ces chevaux ? Donc, tu as parlé d'une vingtaine maintenant. D'où viennent-ils ? Comment tu les choisis ? C'est quoi tes critères ?
Alors, on va dire qu'il y a un peu deux catégories. On va dire ça comme ça. Il y a d'abord ceux que je vais choisir parce que c'est de mon point de vue, on va dire. Voilà. Mais ceux qui ont l'air d'aimer le contact humain. Pour moi, c'était la base. C'était vraiment la base. Si, en fait, je savais que j'allais accueillir que des cavaliers qui souhaitaient créer vraiment quelque chose de fort avec un cheval. Donc, il fallait que je puisse proposer des chevaux qui sont demandeurs. Vraiment demandeurs. Et donc, c'est ce que j'ai cherché en priorité. C'est-à-dire des chevaux. Alors après, ça peut être du Shetland au grand D. J'ai pas de chevaux. J'ai que du poney, mais jusqu'au, hors-côte presque. Et mais voilà, le plus important, c'était qu'ils aimaient le contact avec l'humain pour pouvoir justement être assez disponible, en fait, déjà de base pour créer une relation. Ces chevaux-là, je les récupère le plus souvent poulains. Ça, c'est une question déjà de budget, parce qu'aujourd'hui, des chevaux de loisirs... Enfin, oui, je cherche plus des chevaux de loisirs ou... Enfin, j'en ai certains qui peuvent faire de la compétition, mais des petits niveaux de compétition. Ces chevaux-là, aujourd'hui, ils sont très durs à trouver sur le marché. Donc, c'était un choix de les récupérer poulains, déjà financièrement, bien sûr, mais aussi pour pouvoir faire moi-même leur éducation. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et moi, j'adore ça. Former des chevaux, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc voilà. Et en fait, c'est des chevaux que je vais choisir parce que ils ont le cœur pour être des chevaux d'instruction. C'est-à-dire que c'est des chevaux qui ont envie d'aider l'humain. Enfin, je le vois comme ça. Des chevaux qui sont vraiment, alors c'est pas forcément des chevaux patients ou des chevaux super calmes ou qui disent jamais rien, qui s'affirment pas. Non, c'est pas des chevaux comme ça, mais c'est des chevaux qui ont envie de voir réussir leur cavalier. Alors peut-être que ça va pas parler pour certains, mais moi je le vois pour avoir enseigné en centre équestre, on voit la différence entre ceux qui ont pas envie d'être là et ceux qui, malgré qu'ils en bavent, ils sont toujours contents. C'est pas qu'ils sont contents parce qu'ils en bavent, mais en fait tu sens qu'ils sont bienveillants et qu'ils sont Je saurais pas expliquer mieux que ça, mais...
si, c'est une question de tempérament et de personnalité. Il y a vraiment ce côté... Je pense que tu l'as déjà dit avec la première clé, qui est des chevaux qui vont montrer un attrait pour être avec l'homme. Enfin, moi, j'ai cette petite blague qui dit que quand ma jument, je l'ai choisie, effectivement, elle adorait être avec l'homme. Elle trouvait que l'homme, c'était hyper confortable. C'est toujours une carotte ou une caresse. Et je me dis, s'il y a un zozo qui passe dans le pré, mais c'est sûr, ma jument passe en première, quoi. Parce que de toute façon, c'est vraiment genre, ah, un humain dans le pré, allons voir. Tu vois. Donc, il y a des chevaux qui ont vraiment, naturellement, dans leur tempérament, cette envie pour l'autre, la découverte, et d'autres qui l'auront pas. Voilà, donc... Il y a ce premier point qui est à souligner. Et puis après, il y a, dans les tempéraments et les personnalités, il y a des chevaux qui aiment apprendre. Et comme tu dis, ça veut pas dire qu'ils sont gentils, que tu peux tout leur faire faire. Parce que justement, des fois, ils vont mettre les limites et dire non, ça, je comprends pas, ça m'intéresse pas. Mais parce qu'ils ont cette clarté-là et cette lisibilité-là aussi dans leur caractère, ça en fait des super chevaux pour apprendre.
Ouais, totalement. Et après, justement, aussi le fait de les prendre jeunes, pour moi, ça a un avantage parce que comme je veux enseigner pas que l'équitation, mais tout ce qui tourne autour du cheval, j'aime bien justement mes petits chevaux qui ont cette facilité à s'exprimer. Enfin, ils savent qu'ils vont pas se faire taper dessus parce que ils ont plaqué les oreilles en arrière ou ce genre de choses. Ils savent qu'on va les écouter. Et du coup, ils osent plus facilement que d'autres, on va dire, s'exprimer. Voilà, il y en a qui parfois sont tellement résignés parfois que ils disent plus rien et c'est dur de déceler quelque chose chez eux, quoi. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais pas, en tout cas pas pour apprendre aux cavaliers, en fait. Ouais, je voulais qu'ils aient du répondant, en fait, mes cavaliers. C'est un peu ça. Donc voilà. Donc ça, c'est la première catégorie, on va dire. Et puis ensuite, il y a ceux que je les nomme pas comme ça, mais ça va tous les rentrer dans un moule, c'est les sauvetages. Mais c'est entre guillemets. Parce que c'est pas forcément des chevaux que j'ai sauvés de l'abattoir. Pas du tout. Mais c'est ceux qui m'ont touchée pour une raison et que j'ai récupéré dans des mauvaises conditions. Un des derniers, c'est un Shetland que j'ai récupéré et qui a été en fait vendu avec une maison. Des fois, ça arrive où vous achetez une maison et on vous laisse les chèvres dedans, ce genre de choses. Là, c'était les poneys qui étaient laissés avec. Et ce sont des personnes assez âgées qui ont acheté cette maison avec, du coup, 3-4 poneys, dont lui, qui était l'étalon du troupeau. Et en fait, ils l'ont gardé pendant plusieurs années parce qu'ils se sont attachés aux poneys, bien sûr. Sauf qu'en fait, ils leur ont fait aucun soin. Parce qu'ils y connaissaient rien, malheureusement. Voilà, c'est pas leur faute, mais ils lui ont jamais paré les pieds. Enfin, le poney est resté dans l'herbe bien grasse toute l'année. Et donc, au bout d'un moment, ils ont fini quand même par appeler un centre équestre autour de chez eux pour demander ce qu'ils pouvaient faire des poneys. Et donc, la personne les a récupérés un peu en urgence parce qu'ils étaient dans un état pitoyable. Alors, ils étaient pas maigres, hein, mais au contraire, ils étaient...
Ouais, ils étaient limite en risque de fourbure.
Ah bah ils étaient, moi, oui, ils étaient en fourbure. Donc celui que j'ai récupéré, Astro, lui, il avait vraiment des palmes, des sabots qui remontaient, il marchait plus du tout. Il était obèse.
Donc il y a moitié des jeunes chevaux que tu éduques, donc qui ont une sorte de continuité dans leur apprentissage, une suite logique, donc qui sont des chevaux avec lesquels l'interaction est... En tout cas, la lisibilité du comportement et des interactions est facilitée, on va dire, pour l'apprenant. Et puis, t'as quelques chevaux sauvetage et en fonction de leur tempérament et de ce qu'ils ont envie de donner, bah, tu vois s'il y a un humain qui peut correspondre, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Il y a ceux qui ont eu, je vais pas dire que du positif, mais où on a essayé d'apporter que un contact positif humain. Donc, ceux qui sont nés chez moi ou ceux que j'ai récupérés vraiment très jeunes, on limite au maximum. Alors, il y aura quand même, je pense, ils ont tous, je pense, des traumatismes, des choses comme ça, mais on limite au max quand même les traumatismes liés à l'humain, on va dire. Et puis, il y a ceux où c'est tout l'inverse. C'est ceux qui ont eu justement une mauvaise expérience avec l'humain et qui sont pas moins intéressants pour l'enseignement. Moi, j'ai la chance de pas avoir à les forcer. Je veux dire, j'ai pas un club où faut que les poneys ils fassent des cours toute la semaine et tout. C'est-à-dire que demain, si mon Shetland, il est pas montable parce que il marche trop mal, voilà, c'est, enfin, il a trop mal aux pieds et on n'arrive pas à reprendre. Alors, on essaye de reprendre ses pieds, mais si ça ne marche pas, eh ben, peut-être qu'il aura jamais un cavalier sur le dos. Mais c'est pas grave. Il peut faire peut-être du travail à pied, ou alors s'il peut pas, on trouvera quelque chose, ou alors il sera peut-être replacé, même si ça me ferait mal au cœur parce que je l'aime beaucoup, mais. Mais voilà, j'ai la chance de pouvoir choisir, en fait, un peu selon le cheval, ce qu'il va pouvoir faire.
T'essayes de créer le système pour qu'il y ait cette chance-là. Parce que je pense que c'est important, et on va arriver sur la dernière partie de notre échange, et je sais que c'est aussi quelque chose qui te tient à cœur, donc allons-y, mettons les deux pieds dedans. Aujourd'hui, on a attaqué aussi l'interview par ça. Beaucoup de personnes veulent travailler avec les chevaux parce que c'est une passion, mais malheureusement, on l'a vu, beaucoup en sont dégoûtés ou en tout cas sont tributaires de conditions de vie qui sont vraiment pas très sympas. Il y a quand même une question tabou, ou en tout cas, il y a beaucoup de tabous autour de la place de l'argent dans la découverte et dans la pratique du cheval, je trouve. On a d'un côté une image grand public qui donne l'impression qu'il faut beaucoup d'argent pour faire du cheval, ou qu'il y a beaucoup d'argent dans l'équitation, parce qu'on voit le côté peut-être JO avec le sport prestigieux, sponsorisé par Rolex, tu vois. Et puis, il y a quand même une autre réalité qui est que beaucoup de gens sont en fait des passionnés qui passent tout leur argent dedans, qui sont pas du tout en Rolex. D'ailleurs, spoiler, même ceux qui font du haut niveau, aujourd'hui, c'est devenu tellement cher que les trois quarts des cavaliers ne sont pas propriétaires de leurs chevaux, ont besoin en fait de sponsors. Enfin, ça a toujours été, mais c'est de plus en plus. Il y a de plus en plus de chevaux qui sont en fait, qui ont plusieurs propriétaires, tellement les prix sont devenus astronomiques et qu'il n'y a même pas une personne qui peut réussir à être propriétaire d'un seul cheval. Donc, il y a cette espèce de dichotomie en fait dans notre milieu qui est que tout donne l'impression que c'est absolument inatteignable ou hors de prix, et d'une certaine manière, ça l'est. Alors que beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont amoureuses des chevaux, sont passionnées, sont propriétaires, passent toutes leurs économies dedans et en fait ont une vie plutôt sobre. C'est le mot, je crois, que notre président nous a donné il y a quelques temps. Je pense que beaucoup de cavaliers sont très sobres, en fait. Je comprends l'intention de la FFE. Je vais pas du tout critiquer à voix haute parce que c'est pas l'intention. Mais Je sais qu'une des missions de la FFE, c'est de démocratiser aussi l'équitation. Et d'une certaine manière, ils ont réussi, puisque de plus en plus de personnes ont accès à l'équitation malgré des revenus qui sont, somme toute, modestes. Mais j'ai l'impression que ça s'est fait un peu trop au détriment des chevaux et aussi des humains qui travaillent dans ce milieu. Et je pense qu'on en a un peu parlé ensemble. Léa, tu partages cet avis avec moi. Il y a ce côté où ben, on n'a pas tenu compte des besoins fondamentaux des chevaux, on n'arrive plus à tenir compte des besoins fondamentaux de l'humain. Hein. Je vais vous rappeler la pyramide de Maslow, hein, quand même, qui est de pouvoir manger à sa faim, dormir, se reposer, tout ça. Donc on a créé un système qui fonctionne finalement sur une sorte de marasme un peu, où on a des chevaux qui sont pas bien parce qu'on respecte pas leurs besoins de mouvement, leurs besoins de s'alimenter en continu, leurs besoins d'être au contact sociaux d'autres chevaux parfois, parce qu'on manque de place, parce qu'on peut pas les loger dans des prés, parce qu'on veut rendre ça accessible, il faut que ce soit proche des centres-villes, etc. Et puis, on a créé plein d'humains qui, pareil, en fait, travaillent 60 à 70 heures par semaine, n'ont pas de famille, n'ont pas de temps pour eux parce que ils doivent récupérer, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ils doivent subvenir aux besoins des chevaux qui n'arrivent pas à combler naturellement aussi, entre autres. Enfin, c'est un peu un espèce de serpent qui se mord la queue. On sait même pas trop par quel bout prendre finalement le problème, quoi. En fait, c'est juste que tu dis que toi, t'as la chance, mais en fait, j'ai pas l'impression que ce soit une chance. On voit ton parcours, t'as décidé de quitter le centre équestre, de te former différemment. Il a fallu beaucoup que tu travailles aussi pour faire de la valorisation de jeunes chevaux. T'as passé beaucoup d'heures en centre équestre. T'es pas allé tout de suite vers ton diplôme de monitorat. Il a fallu encore du temps pour que tu y arrives. Il a fallu que tu retournes à l'école pour le passer. Et encore aujourd'hui, tu vois, tu dis, mon projet, j'ai dû le mettre en pause parce que j'ai pas l'écurie parfaite. Et tu abandonnes pas, mais tu fais d'énormes choix qui sont compliqués, ou plutôt qui sont complexes, plus que compliqués, mais tu les fais. Et c'est pas une chance. C'est quelque chose qui demande des compromis et de tenir ses choix, justement.
Par rapport à cette question, justement, un peu financière, je fais face à une vraie dualité pour moi dans ce projet de vouloir proposer une équitation différente pour tous, mais d'un autre côté, je me rends bien compte, et plus j'évolue sur ce projet, plus je fais des calculs et je fais des bilans, des trucs prévisionnels, des machins, je fais des tableaux Excel, plus je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas possible de respecter le bien-être des chevaux sans argent. Et oui, tu disais qu'on avait voulu démocratiser l'équitation, c'est vrai, c'est un peu triste aujourd'hui la réalité du centre équestre. Je vois beaucoup, moi, sur les réseaux sociaux, des centres équestres qui sont pointés du doigt parce que les conditions de vie des chevaux sont pas évidentes, voilà. Mais je pense que ces gens ne se rendent pas compte que, en fait, s'ils étaient pas là, bah déjà, nous tous qui sommes là aujourd'hui, peut-être qu'on ferait pas d'équitation. Et parce que moi, enfin, je fais partie, voilà, je suis pas une enfant de riche. J'étais dans la classe moyenne, mais voilà, mes parents avaient pas pu mettre mes sœurs à l'équitation parce que ça coûtait trop cher. Moi, ils ont pu parce que j'étais la petite dernière. Et encore, ils ont arrêté de me payer l'équitation très tôt parce que ça coûtait trop cher pour eux, quoi. Mais ça reste, oui, plutôt accessible quand même aujourd'hui par rapport à tout ce que ça coûte pour un centre équestre. Donc, aujourd'hui, moi, quand je vais dans une banque, on me dit, oui, mais dans votre plan, il n'y a pas la rentabilité du cheval à l'heure. Tu vois, c'est le genre de questions qu'on va me poser, c'est ben, combien il vous rapporte votre cheval, enfin combien d'heures de cours il doit faire pour être rentable. Enfin, on n'imagine même pas le nombre d'heures qu'il faut, malheureusement. Et on parle de chevaux qui souvent n'ont pas beaucoup de compléments ou pas forcément adaptés, qui ne voient pas d'ostéo, qui ne sont souvent pas vaccinés ou pas, qui ne voient pas de veto, qui sont parés tous les 6 mois, qui ne voient pas le dentiste non plus, qui n'ont pas une selle adaptée. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, pour qu'un centre équestre réussisse à être rentable, il faut faire énormément de concessions qui sont pas faciles, mais c'est dur parce que d'un côté, on a envie, enfin moi j'ai envie, la première de les dénoncer, de dire mais regardez, voilà, vos chevaux c'est pas possible. Et d'un autre côté, en fait, ils font ce qu'on leur demande aussi avec les prix qu'on leur a demandé de mettre en place. Moi, je vois des prix, mais enfin je ne comprends pas comment ils survivent. En tout cas, dans mon coin, je suis proche d'une grande ville. Le tarif au trimestre, c'est dérisoire, quoi. Il faudrait mettre ça au mois et encore, parce qu'en fait, la réalité des choses, c'est qu'un seul cheval, déjà, ça coûte très très cher. Alors quand on en a 20, 30, 50, tout ça, ça se démultiplie, quoi.
T'es en train de parler d'un mode de survie, mais le mode de survie, il est fait pour être quitté. Enfin, la survie, c'est pas un état général, tu vois, c'est un état temporaire pour répondre à une urgence ou à un danger. Mais la survie, qui est clairement l'état dans lequel se trouvent beaucoup d'acteurs du monde équestre, n'est pas censé être un mode quotidien. C'est un mode de survie, quoi. Ça s'active et on l'arrête au bout d'un moment. C'est un sujet insolvable. En tout cas, c'est pas mon rôle de le résoudre. Mais si ça peut planter des graines, je pense qu'il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes à un moment donné, qu'on soit cavalier de club encore, bientôt propriétaire pour ceux qui écoutent ce podcast et dont c'est le rêve, il y a un minimum de coût incompressible en fait. Parce que le cheval, il est fait pour avoir des conditions de vie qui demandent un minimum d'espace, beaucoup de ressources. Si on a un minimum d'espace et beaucoup de ressources, ça devient très énergivore pour l'humain.
Oui, parce que là, c'est vrai, j'ai pas parlé du temps que ça prenait déjà.
Voilà, mais parce que, en fait, c'est que, tu sais, il y a le fameux triangle où tu peux jamais avoir les trois d'un coup, tu peux pas avoir le temps et l'argent et je sais plus quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'un cheval, il a besoin de place. Plus t'as de place, plus tu résous probablement un problème de ressources et du coup, un problème d'énergie pour l'humain, puisque s'il y a de la place, alors, par exemple, la gestion des déchets, ce genre de choses, tu peux te permettre d'être plus laxiste. Donc forcément, plus tu réduis la place, plus à un moment donné, tu vas devoir combler ce manque de place par des ressources additionnelles et de l'énergie additionnelle pour pouvoir maintenir le minimum de place que tu as donné solvable. Tu peux pas juste enlever un truc de l'équation et te dire « on verra ». Ça ne marche pas comme ça. Il y a un moment donné, si vous devenez propriétaire, parce que vous êtes un peu fâché avec l'offre de l'équitation aujourd'hui en France, attention à ne pas vous voiler la face sur la réalité de matériellement ce que ça demande comme ressources Et c'est pour ça que j'aime bien ce mot ressource, parce qu'il n'y a pas qu'une notion d'argent, il y a vraiment cette notion de bah, si tu as l'argent, potentiellement, tu peux résoudre les problèmes de temps et d'énergie. Mais si tu n'as pas l'argent ou pas tout l'argent, bah, du coup, tu vas devoir mettre plus d'énergie et des ressources différentes, etc. etc. Mais on ne peut pas juste enlever l'un en pensant que l'autre va se remplir naturellement, quoi. Donc, dans ton projet, on voit la complexité qui est de aussi trouver comment on offre un lieu qui respecte les besoins des chevaux, mais qui permette d'accueillir quand même du public en sécurité, avec un minimum d'infrastructure et avec une offre qui, si vous voulez créer justement cette relation magique avec un seul cheval, ne pas forcément le partager, vous dire que c'est un cheval qui est bien dans sa tête, qui est écouté, qui ne manque de rien, bah, ça a un coût. Ça peut pas être le même coût que 4 heures par mois au centre équestre. Parce que déjà, les 4 heures par mois au centre équestre, elles sont pas au bon coût. Non seulement elles sont pas au bon coût, mais c'est ce qui vous fait tiquer. Parce que vous voyez bien qu'il y a une sorte de malaise entre l'humain qui fait trop d'heures et le cheval qui n'a pas les conditions. On est obligé à un moment donné de se poser pour se dire, bah, par rapport à ces fameuses valeurs de bien-être et de bien-traitance qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui mis sur le devant de la table, quels sont les choix que vous devez faire, mais surtout quels sont les choix financiers qui doivent être faits aussi pour que ça existe. Parce qu'il y a quand même à un moment donné, cette question de l'argent est assez centrale finalement dans la résolution des problèmes, quoi.
Il y a beaucoup de personnes qui s'offusquent parce que pour eux, justement, l'équitation doit être accessible à tous. Je pense qu'il, ouais, que, enfin, il faut pas non plus se voiler la face. L'équitation, ça reste quand même très onéreux puisque on doit entretenir un être vivant qui coûte beaucoup, que ce soit en temps ou en argent. Et je pense que ça devrait pas être accessible à tous, en fait. C'est, ou alors d'une autre façon. Peut-être,
manière.
Ouais, sans monter peut-être, ou proposer un autre service, quelque chose de différent, revoir peut-être un nouveau modèle, quelque chose. Mais c'est vrai que moi, c'est une question, je déteste parler d'argent, mais depuis que je suis dans mon projet, ben, je suis obligée, j'en parle toutes les semaines. Et oui, c'est dur pour moi de réclamer de l'argent. En fait, moi, j'aimerais proposer aux cavaliers de venir gratuitement, ce serait génial. Mais oui, je pense qu'il faut pas se voiler la face et qu'il faut accepter que bah si tu veux pouvoir faire de l'équitation dans un endroit où les besoins des chevaux sont respectés, il faut accepter que ça ait un coût, quoi.
C'est ça. En fait, je pense que la question de l'argent, faut pas oublier qu'elle est juste là pour permettre de subvenir à des besoins et que c'est pas une question de faire de l'argent ou pas faire de l'argent. C'est une question de quelle est la valeur réel de ce projet et de ce que ça vous offre. Passer du temps avec les chevaux, ça vient chercher chez nous des émotions, ça vient chercher beaucoup de choses. Et en fait, c'est une valeur, c'est pas juste un prix. Et la valeur, c'est la valeur du travail qui est fourni au quotidien par beaucoup d'humains pour que l'environnement, l'infrastructure, le bien-être et la bien-traitance, parce que c'est deux choses différentes, soient au rendez-vous au quotidien. L'argent, c'est juste la valeur que vous mettez dans toutes ces valeurs humaines. Et c'est pas qu'une question de coût. Mais ces valeurs ont des coûts, certes. Mais voilà. Et c'est pas si simple aujourd'hui d'arriver à faire coexister tout. Parce que pointer du doigt pour dire que c'est pas bien, c'est très facile. Mais par contre, accepter de rogner un peu sur ce qu'on pourrait donner de plus ou ce qu'on pourrait faire de moins, ou de différemment, bah là, c'est justement tout un tas de nouvelles questions qu'il faut se poser sur combien on dépense par mois en tapis de cheval ou dans la rémunération de notre coach qui perd 2 heures aller-retour à venir nous donner un cours et qui passe 55 minutes sous la pluie à nous faire notre séance. En tout cas, Léa, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler de ton projet, nous parler de cette nouvelle vision de l'équitation. Moi, ce que je retiens de notre échange, c'est que, en fait, il y a une envie collective et qu'il faut encore un peu de temps pour voir fleurir de nouvelles formes, mais que je suis persuadée que ça va arriver. Par contre, il faut s'autoriser à tout casser pour peut-être tout faire différemment et du coup, ça prend du courage. Et heureusement qu'il y a des gens courageux comme toi. Donc, merci. Je retiens aussi que finalement, tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui ont conscience qu'il faut faire mieux et qu'ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent avec les moyens du bord et que c'est à nous de leur donner de quoi pouvoir faire encore mieux. Et que même dans l'enseignement aujourd'hui des futurs enseignants d'équitation, quand on est dans le bon établissement, le mot d'ordre est « il va falloir changer tout ça ». Il va falloir penser différemment avec des choses qui n'ont pas encore été faites. Et je trouve ça hyper positif, en fait, comme mot de la fin, quoi.
Oui, moi, c'est vrai que j'ai eu une longue période où je pensais que l'équitation allait mourir. Parce que plus on avance dans l'humanité, plus la cause animale prend de la place, voilà, et on est de plus en plus sensibilisés. Et il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de maltraitance dans l'équitation. C'est quand même de plus en plus pointé du doigt. Il y a des associations de défense des droits des animaux qui aimeraient voir l'équitation interdite. Et pendant un moment, oui, moi, je me suis dit aussi, ça va finir par être interdit. Et en fait, plus grâce à mes réseaux sociaux, surtout, et à mon projet, je me rends compte qu'en fait, on est beaucoup à avoir conscience des choses et à vouloir changer un petit peu la façon de faire. Et en fait, je me rends compte que ça va prendre du temps, mais que, avec beaucoup de bienveillance, je pense que on peut évoluer et proposer vraiment une nouvelle équitation, quelque chose peut-être plus centré autour du cheval. Et je suis assez optimiste aujourd'hui, sinon j'aurais pas fait ce métier. Et je pense vraiment que l'équitation apporte autant à l'humain qu'au cheval, honnêtement. Je pense que les chevaux aussi. Ils peuvent apprécier ça et ils aiment beaucoup notre compagnie, faut pas croire. Ils ont été domestiqués mais aussi élevés depuis des générations pour nous aider. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un peu inscrit dans leur gène. Alors après, bon, je ne suis pas généticienne, mais je pense qu'ils y vont de bon cœur, quoi. Et il y en a beaucoup qui aiment beaucoup ça. Et que voilà, c'est pour ça que je trouverais ça dommage que on continue de nous pointer du doigt, même si effectivement il y a beaucoup de choses à revoir.
Il y a 2-3 dossiers.
Ouais, c'est ça. Mais non, franchement, je suis très optimiste et je vois que des belles choses depuis que j'ai mes réseaux sociaux et que je fais ce projet. Vraiment, même dans l'équitation classique où je pensais que tout était acheté, au final, vraiment pas. Il y a beaucoup de belles choses un peu partout. Voilà.
Super mot de la fin. Merci beaucoup Léa. Donc du coup, on peut te retrouver sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sous le nom Softpaw, donc SOUTHPAW.
TikTok, je publie rien dessus, mais un jour, je remettrai du contenu peut-être.
On peut pas être partout en même temps.
Ouais.
Donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, on peut aussi retrouver ton projet. Je mettrai le lien directement si les gens veulent se faire un avis et veulent participer et t'aider à monter cette écurie de rêve.
Merci beaucoup.
A priori, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode, c'est que celui-ci vous a plu. Alors pour démarrer cette nouvelle année sous les meilleurs auspices possibles, je vous invite à me laisser une notation ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, bref, votre plateforme d'écoute préférée. C'est bien vous qui êtes les seuls capables de me hisser tout en haut des charts. Moi, en somme, je ne prépare que le contenu. Derrière, je n'ai aucun pouvoir pour pouvoir décider si le podcast sera une réussite ou pas. Si c'est le premier épisode que vous écoutez, alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur Instagram ou TikTok pour suivre notre quotidien à Iggy et moi. Nous y sommes sous le pseudonyme @Iggy, IGGY.journal. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.